Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën.
Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën.
Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'infos avec évidemment les commémorations de la fin de la guerre 14-18 devant toute la planète, du sport avec le choc PSG Monaco et l'arrivée de la route du Rhum qui va se faire au finish et une page média avec un document exceptionnel, l'histoire secrète de l'antiterrorisme. Mais l'actu principale de ce 11 novembre, c'est évidemment la cérémonie place de l'étoile en présence de Poutine, Trump et Merkel et une 60aine de chefs d'État, puis le déjeuner à l'Élysée, puis le forum pour la paix, mais cette fois sans Trump ni Poutine, sans parler de l'irruption des Femen sur le trajet officiel, vous serez aux premières loges, nous aurons 2 invités à ce sujet. Et puis c'est une première pour Michel Fourniret, le tueur et violeur en série va répondre à partir de mardi du seul crime crapuleux qui lui soit imputé, un assassinat en 88 qui lui a permis de s'emparer d'une partie du magot du gang des postiches. Il va comparaître aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier, ses 2 diaboliques ont un enfant, un fils, Selim, et un journaliste l'a retrouvé. Il a même réussi à aller avec lui voir Fourniret en prison, c'est un document unique et nous avons retrouvé le journaliste. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et réagissez à tout moment sur tous les sujets qui seront traités dans ce 18h-20h. Rendez-vous sur europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 18h. Et bienvenue à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ensuite, le journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne. Et
bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal ce soir.
Le monde entier à Paris pour célébrer la paix, image forte de ses dirigeants en rang serré sur les Champs-Élysées. Nous revivrons les moments forts de cette cérémonie. Donald Trump a fait choisir, lui, de faire bande à part cet après-midi. Il a rendu hommage aux soldats américains à Suresnes plutôt que de participer, vous le disiez, au forum pour la paix à la Villette. Nous irons aussi dans le nord, dans un village marqué par l'hécatombe sanglante de la Grande Guerre, où les cloches ont résonné à 11h ce matin, comme il y a 100 ans, pour marquer l'armistice. À la une de l'actualité, encore le suspense dans la route du Rhum, avec le vétéran Francis Joyon qui n'est plus qu'à 50 km du premier François Gabart. Et puis David Hallyday qui rend hommage à son père, ce sera la fin de ce journal.
Europe 1. Le monde entier s'est donné rendez-vous à Paris aujourd'hui pour célébrer la paix à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.
70 dirigeants, chefs d'État et de gouvernement étaient ce matin à l'Arc de Triomphe. Nous reviendrons dans un instant sur les temps forts de cette cérémonie. Mais ce qui aura marqué aussi cette journée, c'est Donald Trump qui a fait bande à part, remontant en voiture les champs, tout comme Poutine d'ailleurs quand les autres dirigeants le faisaient à pied. Et cet après-midi encore, il a baudé le forum de Paris pour la paix pour jouer sa partition au cimetière américain de Suresnes pour rendre hommage aux soldats américains, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, et Donald Trump est arrivé au cimetière américain de Suresnes avec près d'une heure de retard. Il était retenu à l'Élysée pour un échange avec Vladimir Poutine. Malgré une pluie froide et continue, le président américain tenait à être présent devant une centaine d'invités, devant aussi les 1541 croix blanches du cimetière militaire, sur les pentes du Mont Valérien, face à Paris, face à l'Arc de Triomphe et au loin, dans les nuages, la Villette, où se tient au même moment le Forum pour la paix. Donald Trump en est le grand absent. 10 minutes de discours sans parapluie sur la grande estrade rouge au cours duquel il a rendu hommage au courage des soldats. Un discours touchant quand il lit la lettre d'un soldat américain à sa mère décédée pendant la Première Guerre mondiale.
Chère maman, je pense à vous tous à la maison et je sais que si je suis épargné, je serai heureux de revenir et d'être chez moi plus que jamais. Ce sera comme le paradis d'être de nouveau quelque part où règne la paix, seulement la paix.
Et c'est au bout d'une demi-heure que Donald Trump est reparti dans sa limousine blindée, accompagné par la fanfare de la section européenne de l'US Air Force.
Jean-Gabriel Bourgeois, Donald Trump qui avait donc fait bande à part pour son arrivée aussi à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de ce matin, une cérémonie Rémi Botsaron qui a débuté avec une image très marquante, ses chefs d'État et de gouvernement en rang serré pour remonter les Champs-Élysées.
Oui, tous ces dignitaires au visage grave que l'on a vu avancer ensemble sous leur parapluie noire sur les Champs-Élysées avant de prendre place sur une tribune. Au centre, Emmanuel Macron et Angela Merkel côte à côte pour une cérémonie qui commence en musique, au pied de l'Arc de Triomphe, avec les notes profondes de Bach interprétées par le violoncelliste Yo-Yo Ma. Et après la musique, les mots, les paroles de ceux qui ont vécu ce 11 novembre 1918, ce sont des lettres lues par des lycéens, et notamment celle-ci écrite par la fiancée d'un soldat.
Pierre, ardemment chéri, au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle.
Et puis ces lycéens se sont joints à Emmanuel Macron pour raviver la flamme du soldat inconnu. Et la musique est revenue avec ce boléro de Ravel interprété par l'orchestre des jeunes de l'Union Européenne. Enfin, ce fut la traditionnelle sonnerie aux morts, la minute de silence poignante. Et enfin, surtout, cette sonnerie au clairon. Cette sonnerie, c'est celle qui avait résonné il y a tout juste 100 ans. C'est la sonnerie de l'armistice.
Rémi Botsaron, avec les cloches qui ont résonné, on l'entendra tout à l'heure aussi dans tous les villages à 11h ce matin, autre temps fort de cette cérémonie, le discours d'Emmanuel Macron, le président français, qui a exhorté à ne pas oublier les leçons du passé.
Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principe supérieur dans le patriotisme de nos aînés, car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyons avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres.
Et comme en écho cet après-midi à Emmanuel Macron, c'est Angela Merkel qui, en ouverture du Forum pour la paix à Paris, a dit que le projet de paix européen était à nouveau remis en cause.
En marge de ces commémorations, une manifestation anti-Trump était organisée place de la République à Paris.
On retrouve sur place Pierre Herbulot. Les autorités redoutaient des incidents. Quelle est l'ambiance finalement, Pierre ?
Meilleur que prévu parce qu'effectivement la préfecture de police redoutait des débordements avec la présence de casseurs d'ultra-gauche, les Black Blocs. Ils étaient une centaine, habillés tout en noir sur la place de la République, surveillés de très près par un important dispositif policier. Pour autant, le rassemblement s'est tenu dans le calme. Les 1500 personnes rassemblées ont crié leur haine du président américain sous un gigantesque ballon gonflable, le représentant en couche-culotte. Un Donald Trump impérialiste, va-t-en-guerre et raciste pour les manifestants, méprisant aussi, d'après Françoise, qui cite son absence hier au cimetière américain de Boisbello. Bref, un invité tout sauf le bienvenu pour célébrer le centenaire de l'armistice.
Et notez par ailleurs que 3 militantes féminines ont forcé la sécurité au passage de la berline du président Trump ce matin alors qu'il remontait les Champs-Élysées. Elles ont été placées en garde à vue et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, assure qu'elles n'ont en rien menacé la sécurité du cortège.
Europe 1. Dans un instant, nous serons dans le Nord où ces commémorations du 11 novembre avaient une résonance bien particulière ce matin.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h08, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Et pour ces commémorations du 11 novembre, c'est toute la France qui était à l'unisson avec les cloches qui ont résonné partout à 11h ce matin.
Des cloches qui ont sonné comme il y a 100 ans pour marquer la fin de la guerre. C'était le cas à Fromelles dans le Nord, là où en 1916, 7000 soldats ont trouvé la mort en 2 jours. Lionel Gougelot.
Les cloches de l'église de Fromelles se mettent à sonner quelques minutes avant 11h, puisqu'à cette heure-ci, l'hommage national coïncide avec l'appel à la messe dominicale. Fromelles, petit village sur la ligne de front à 20 km à l'ouest de l'île, théâtre en juillet 1916 des premiers combats de l'armée australienne débarquée en Europe et du premier sacrifice de ses boys. Alors ici, pour l'ancien maire Hubert Huchette, cet hommage national prend une signification très forte.
D'abord pour notre village qui a beaucoup souffert pendant la guerre puisqu'il était complètement rasé. Et puis on ne peut pas oublier ces soldats australiens venus de si loin qui se sont battus sur le sol de la France et c'était leur premier engagement en plus. Évidemment, j'ai beaucoup pensé à eux aujourd'hui.
Et le symbole de ce lien indéfectible entre Fromelles et l'Australie, c'est cette cloche de la liberté qui résonne en même temps à l'école du village. Une cloche offerte il y a quelques années par l'Australie en signe d'amitié et qui rythme la vie des écoliers. Anne-Florence Wilfer, la directrice.
Les Australiens ont l'habitude de dire que Fromelles est parfois plus connu en Australie que Paris. Et là, je pense que cette cloche sera plus entendue que d'autres cloches françaises. Pour eux, elle est vraiment particulière et c'est un lien très particulier. Je pense que oui, ça passera les océans et ça arrivera jusqu'à eux.
Un hommage donc sans doute entendu de l'autre côté de la planète pour des combattants australiens et britanniques dans tous les esprits lors de la cérémonie devant le monument aux morts. À Fromelles, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour rester dans le sujet, notez que je recevrai dans quelques minutes Philippe-Michel Klesbauer. Il est député du Var et surtout spécialiste des anciens combattants. Et puis, au-delà de ces commémorations, on va voyager, on va retenir encore dans l'actualité ce soir, Fabienne, le bilan qui s'est alourdi en Californie.
Au moins 25 morts dans les incendies qui ont déjà ravagé des milliers d'hectares dans l'État. 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Des milliers de bâtiments sont partis en fumée. 6 700 rien qu'à Paradise, près de Sacramento, une ville de 27 000 habitants. Retour en France avec l'album posthume de Johnny Hallyday qui vient de passer la barre du million. Voilà Mon pays c'est l'amour, deux fois disque de diamant. Et David Hallyday va rendre hommage à son père avec une chanson qu'il interprète depuis le mois de mars sur scène et qu'il a enregistrée dans son nouvel album, un vrai cri d'amour comme il l'a confié à Diane Chénouda.
C'est ma dernière.
C'est la lettre que j'aurais adoré avoir, mes enfants aussi, parce qu'il aimait aussi ses petits-enfants, il adorait ses petits-enfants, donc c'est des mots qu'on imaginerait pouvoir vouloir offrir et donner aux gens qu'on a aimés, quoi. C'est une lettre d'amour en fait.
Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom ?
J'ai mis tout mon ressenti, tout ce que j'ai vécu, cette espèce de cheminement très très difficile, d'une violence inouïe, parce que bah, quand on perd un proche, ceux qui le savent ce que ça fait. Cet album, il m'a permis de commencer mon deuil, et il m'a permis aussi à commencer à me reconstruire un petit peu, et à me protéger aussi, moi et ma famille. Pour moi, c'est un album thérapeutique, bien entendu.
C'est juste un dernier cri.
David Hallyday avec Diane Chénouda et le clip de la chanson Ma dernière lettre a été réalisé par sa sœur Laura Smet et on pourra le découvrir mardi.
C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Europe 1, 18h12.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Après ce week-end globalement pluvieux et doux, on l'a vu à la télé, à quoi va ressembler notre lundi ?
Un ciel qui s'assagit, qui se calme Philippe, parce qu'il pleut encore demain une bonne partie de la journée, des Pays de la Loire et du nord de l'Aquitaine jusqu'à la frontière belge. Mais le beau temps reviendra ensuite pour le reste de la semaine. Sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, les passages nuageux vont dominer, mais les pluies seront plus éparses. Sur PACA et le Languedoc, là, ça continue de pleuvoir sérieusement, notamment sur les Cévennes. Le vent est sensible de Midi-Pyrénées au Massif central et en vallée du Rhône avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur les Pyrénées ou encore dans le domaine de l'OTAN. Les températures sont stationnaires. Elles seront donc douces ce lundi, le matin entre 5 à Montluçon et 17 à Lyon et l'après-midi entre 12 à Amiens et 21 à Clermont-Ferrand.
Heureux habitants de Clermont-Ferrand et leur 21. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est avec vous Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et si je suis bien informé, ça démarre par la 13e journée de Ligue 1, l'OM qui reçoit actuellement Dijon.
Marseille en plein doute, Marseille qui reste sur 4 revers consécutifs et éliminé de la Ligue Europa affronte actuellement Dijon, Yann Terrou.
Absolument, 52 minutes de jeu, l'Olympique de Marseille qui mène 1-0 au stade Vélodrome. Une première mi-temps marquée par ce but dans les toutes dernières secondes signé Adil Rami avec une belle tête décroisée au second poteau. Pamela Anderson, sa compagne qui est dans les tribunes, a applaudi. Les supporters de l'OM ont poussé un ouf de soulagement car Cyril, auparavant, c'était un Kostas Mitroglou qui atteint records dans la médiocrité.
C'est fou, hein.
À la pointe de l'attaque marseillaise qui avait raté un ballon dont strictement rien ne le séparait du but. Marseille qui mène 1-0, c'est bien là l'essentiel. Et c'est la 52e.
Sous les yeux donc de Pamela Anderson, on l'aura noté.
Et moi j'ai une pensée pour Pamela Mitroglou.
Alors on précise que les joueurs de Marseille portaient et portent ce soir un brassard noir. Une minute de silence a été respectée avant la rencontre en hommage aux victimes de l'effondrement des deux immeubles vétustes qui ont fait 8 morts.
Autre match qui a lieu en ce moment, c'est le derby de Bretagne.
Ouais, le Stade Rennais en baisse de régime affronte un FC Nantes revigoré depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Vahid Ali Le mélodique. Loïc Folliot, vous êtes en direct du stade de la Beaujoire.
Oui, effectivement, un but partout pour l'instant, c'est le stade Rennais alors que l'on joue depuis 54 minutes, 55 maintenant, qui a ouvert le score à la 8e minute. Coup franc excentré de Grenier, détourné dans le but de Tatarusanu par Johansson, et puis Nantes a égalisé par l'inévitable Emiliano Sala, un coup de tête magistral dans la lucarne de Koubek qui fait pour l'instant de Sala le co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 11 buts en 13 matchs. Mais attention, à l'instant où je vous parle, c'est un pénalty pour le stade Rennais après une faute apparemment peu évidente de Diego Carlos sur Sarr dans la surface de réparation. C'est Clément Grenier qui va le frapper, ce coup de pied arrêté. On sait qu'il excelle dans ce domaine. Je ne sais pas si on a le temps de conserver l'antenne, parce qu'évidemment à chaque fois qu'il y a une sentence de ce type, il y a énormément de palabres et l'arbitre...
On va revenir avec vous à la fin si vous voulez, hein, Loïc.
Absolument.
Pour donner donc ce pénalty, effectivement, vous êtes au Roazhon Park, donc à Rennes, pour cette rencontre.
Et puis ce soir, le choc à 21h, ça sera sur Europe. C'est entre Monaco et le PSG, dans un climat marqué par les affaires.
Les responsables du PSG seront reçus cette semaine par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, suite aux révélations de Mediapart concernant le fichage ethnique au sein du PSG.
Marlène Schiappa. Rugby, le 15 de France battu sur le fil hier soir par les Sud-Africains.
Défaite 29 à 26, la cinquième de suite et la plus rageante. Les Bleus ont mené à quelques secondes de la fin du match. Et ce matin encore, le sélectionneur Jacques Brunel avait du mal à pardonner ses joueurs.
Il y a beaucoup d'amertume, de colère, de déception. J'en veux un petit peu aux joueurs, un petit peu à l'arbitre aussi, un petit peu à notre manque de concentration sur la fin. Trop facile de leur donner des points comme ça. On va mettre en exergue le positif aussi, parce que cette équipe sud-africaine, elle est difficile à manœuvrer. Ses derniers résultats montrent sa valeur. Donc on était nous aussi en mesure de les battre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça. On va mettre ça en avant.
Propos recueillis par Simon Rubin. Prochain match samedi prochain à Lille, la France recevra l'Argentine.
Et puis on va terminer par la voile. Encore plus que quelques heures avant l'arrivée du vainqueur de la 11e édition de la Route du Rhum, avec un final vraiment pour le moins époustouflant.
Francis Joyon vole sur l'Atlantique et n'a plus que 50 km de retard sur le Benjamin de la catégorie, qui lui se trouve à 130 km wow. Désormais de Pointe-à-Pitre. Gabart au ralenti. On comprend seulement maintenant pourquoi. Il a des soucis technique à bord de son bateau. Corinne Boulou, vous êtes en direct de la Guadeloupe.
Oui, effectivement, son maxi trimaran n'a pas été épargné par les avaries. Après avoir masqué ses problèmes à bord pour ne pas donner d'informations à son adversaire direct, et face à nos interrogations sur la différence de potentiel de vitesse entre les deux bateaux, alors que Massif était censé être plus rapide que Hidek, eh bien son équipe s'est résolue à communiquer ce soir, alors que François Gabart est en train d'aborder en tête le nord de la Guadeloupe. Il a réussi jusqu'à présent à contenir les assauts d'un Francis Joyon, toujours menaçant. François Gabart progresse dans la mer des Caraïbes, sans foil, sur son flotteur droit, perdu dans la deuxième nuit après le départ. Encore plus handicapant, Cyril, son maxi trimaran est privé ensuite de son gouvernail sur le flotteur gauche. Autant vous dire que c'est un exercice d'équilibriste depuis 5 jours, et le voilà lancé maintenant dans un dernier exercice et non des moindres, celui du Tour de la Guadeloupe qui l'attend dans les prochaines heures pour une arrivée de nuit estimée aux environs d'une heure du matin pour vous en métropole.
On vous retrouve dans le journal des sports de 19h.
Et Loïc Folliot, ce pénalty alors?
Arrêté par Tatarusanu.
Waouh.
Très ferme, arrêt magistral somptueux du portier nantais. Un but partout, toujours entre Rennes et Nantes, 58e minute.
Merci beaucoup Loïc, intervention magistrale et somptueuse. C'était le journal des sports, non moins magistral. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie.
Europe 1.
Ce matin s'est tenu le point d'orgue des commémorations du 11 novembre. Une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, en présence de Poutine, Trump et Merkel, et près de 80 chefs d'État. Philippe Michel Claesbauer y était. Il est député, spécialiste des anciens combattants à l'Assemblée nationale. Il va nous raconter cet immense moment d'émotion. A tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h20, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel. Alors ce matin, s'est tenue à Paris une cérémonie suivie dans le monde entier.
Effectivement, les commémorations du 11 novembre, le centenaire de la fin de la guerre 14-18, avec la cérémonie sous l'Arc de Triomphe, en présence de Vladimir Poutine, Donald Trump, Angela Merkel et près de 70 chefs d'État et de gouvernement. Bonsoir Philippe-Michel Claesbauer.
Bonsoir.
Vous êtes député Modem du Var, spécialiste des anciens combattants à l'Assemblée nationale et des questions de mémoire. Vous étiez place de l'Étoile ce matin face à l'Arc de Triomphe. Comment avez-vous vécu cette matinée? Quelles émotions?
Avec une émotion encore toute prégnante. D'abord, l'énonciation des trois noms des soldats morts cette année pour la France, parce que c'est une nouveauté. Chaque année, énumérer les noms, hélas, nous le souhaitons le moins possible, chaque année des morts pour la France. Et puis derrière, un discours et des expressions lyriques et orchestrales sublimes qui ont sublimé toute cette manifestation, un solo de Yo-Yo Ma au violoncelle, ou la voix extraordinaire d'Angélique Kidjo qui nous a donné des frissons avec un ensemble orchestral des jeunesses européennes qui a été sublime, qui a interprété un boléro de Ravel magnifique.
Pardon de vous dire ça, mais quand on est député, quand on est dans la politique, on envoie des cérémonies. Qu'est-ce que celle-ci avait de particulier ?
La présence de tous ces chefs d'État, la présence du président Trump, du président Poutine, de la chancelière Merkel, de Justin Trudeau. Je veux dire, c'était un monument où le monde entier était réuni là pour la paix. Et ce mot du président Macron, puisse ce rassemblement international pour la paix ne pas être le dernier. C'est un symbole très fort.
Puisque vous parlez du président Macron, comment avez-vous vécu l'arrivée du président en voiture blindée ? Vous regrettez qu'il n'ait pas remonté les Champs-Élysées ? Parce que c'était émouvant aussi cette image de tous ces chefs d'État à pied.
Alors, pardon, de là où nous étions, nous les avons vus arriver à pied aux Champs-Élysées. Alors, peut-être était-ce le dernier tronçon, segment du parcours.
Non, mais Trump est en voiture.
Ah, Trump, pardon.
Bien
oui,
sûr.
Oui, Trump n'était pas... Je pensais au président Macron et à la chancelière Merkel.
Non, Donald Trump en voiture.
Non. Donald Trump est arrivé par un autre itinéraire, nous ne savons pas lequel. Monsieur Poutine non plus. Bon, ben, ils ont marqué leur différence ainsi, dommage. Ils n'étaient pas dans mon cortège, en tout cas.
Sur le fond... Le discours du président Macron, vous en avez parlé, était scindé en deux parties. D'abord une partie mémorielle, ensuite une partie plus politique. Oui. Laquelle retenez-vous en priorité ?
Les deux, mon général. C'est que nous avons la partie mémorielle qui est très importante puisque nous finissons la mission du centenaire, extrêmement bien dirigée par Joseph Zimet. Mais nous avons peur qu'elle tombe dans l'oubli derrière. Et c'est pour ça que le président a forcé sur ce trait-là, de manière à ce que tout le monde perpétue cette mémoire. Et cette mémoire, elle est aussi pour la paix. Oui. D'où cette initiative de paix qui s'est ouverte juste derrière, sur une idée simple, je parle du forum de la paix, sur une idée simple, selon laquelle la coopération internationale est essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable. Et c'était la deuxième partie du discours du président Emmanuel Macron, et qui était là pour sceller tous ces chefs d'État dans un monde qui est très très fragile à l'heure actuelle.
Emmanuel Macron a déclaré « Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, de la dégradation de notre nature, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. » Quand le président parle du réchauffement climatique, pardon, mais on est loin des poilus et des tranchées, c'est de la politique.
C'est de la politique, mais nous savons aussi que ces questions de dérèglement climatique sont source de migrations massives, qui sont source de tensions et qui peuvent déboucher sur des guerres nouvelles, ce que nous ne voulons pas.
En quoi est-il important, vous qui êtes un spécialiste de cette mémoire-là, de célébrer une guerre dont il ne reste plus aucun survivant ?
On a célébré l'armistice, cette fin de la guerre, de la paix retrouvée. Mmh. Vous avez vu les images hier, comme tout le monde.
Je veux dire le sens de ma question.
Merci.
J'avais 8 ans en 70, en 1970, j'ai aucun souvenir qu'on ait célébré la fin de la guerre de 1870.
Oui, et pourtant les combats de Bazeilles dans les Ardennes sont extrêmement glorieux. La maison de Bourgerie, l'auberge Bourgerie avec la division bleue qui
commande la terreur. Comment vous expliquez, pourquoi est-ce qu'il faut célébrer désormais ces fins de bataille ?
Ne pas oublier.
Ou est-ce que là encore c'est de la politique ?
Parce que les morts que nous avons honorés aujourd'hui, c'était des jeunes. C'était une jeunesse qui s'est sacrifiée. Et face au sacrifice d'une jeunesse, nul ne peut rester ou demeurer indifférent. Voilà pourquoi il faut commémorer et commémorer toujours et garder ce souvenir intact. 14-18, toutes les guerres, c'est le sacrifice de la jeunesse.
Macron, le président Macron a dit « Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa trahison. » Et à sa manière, on sentait qu'il parlait de l'Europe en critiquant le nationalisme et on s'est dit qu'il était déjà en campagne pour les européennes.
Peut-être. Mais la montée des nationalismes est une inquiétude qui réveille justement ces souvenirs douloureux. Et je pense que nous devons être extrêmement pédagogiques vis-à-vis de tous les peuples d'Europe. Moi, je suis très ouvert et très, très participatif sur l'Europe, l'ouverture de l'Europe à l'Est. Et nous avons un gros travail à faire de ce côté-là.
Merci beaucoup Philippe-Michel Claesbauer.
Merci à vous
de m'avoir
invité.
Que vous êtes député Modem du Var, spécialiste de la mémoire et des anciens combattants.
Europe 1.
C'est une première pour Michel Fourniret, on change totalement de sujet. Le tueur et violeur en série va répondre à partir de mardi du seul crime crapuleux qui lui soit imputé, un assassinat en 88 qui lui a permis de s'emparer d'une partie du magot du gang des postiches. Il va comparaître aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier et ses deux diaboliques ont un enfant, un fils, Selim, et un journaliste l'a retrouvé. Il a même réussi à aller voir avec lui Fourniret en prison. C'est un document unique, on en parle juste après le rappel des titres et la météo.
18h25.
18h27, on retrouve Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir.
Et c'est maintenant le rappel des titres avec Laurence Dezélé. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. À Paris, c'est parti pour le Forum de la paix. Plusieurs dizaines de dirigeants mondiaux sont réunis à la Grande Halle de la Villette jusqu'à mardi. Tout à l'heure, le président Macron, comme son homologue allemand, ont mis en garde contre la montée du nationalisme, du racisme ou encore du populisme. Les commémorations de l'armistice du 11 novembre se sont déroulées ce matin à Paris et dans toute la France. Dans le journal, on écoutera la réaction de quelques Français venus assister aux célébrations sur les Champs-Élysées. Et puis on reviendra sur le déroulement de la cérémonie qui a eu lieu sous l'Arc de Triomphe et plus précisément sur un des moments forts de la passation de mémoire entre deux générations.
Merci beaucoup Laurence, on vous retrouve tout à l'heure pour un journal complet à 19h.
Europe 1.
La météo, c'est maintenant avec vous, Valérie Darmon. Retour au calme dans notre ciel toute la semaine.
Retour au calme sous une grande douceur toujours et un ciel de plus en plus lumineux au fil des jours. Demain, il pleut de la façade atlantique aux Ardennes et il continue à pleuvoir sur le Languedoc. Le temps sera plus sec ailleurs. Mardi, les pluies vont se limiter à l'Alsace jusqu'en Occitanie et le Piémont pyrénéen. À partir de mercredi jusqu'en fin de semaine, le temps va redevenir sec quasiment partout. Le soleil va s'imposer alors jusqu'au week-end prochain, plus ou moins facilement au gré de la dissipation des nuages bas, notamment ceux du matin. Les maximales, elles seront comprises entre 11 et 18 degrés lundi et mardi du nord au sud, et puis de 14 à 19 jusqu'à 22 dans les plaines du sud-ouest pour la fin de la semaine.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Dans une minute, il sera 18h30. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir orchestré par Philippe Vandel. N'hésitez pas à commenter l'actualité sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez réagir notamment sur Michel Fourniret.
Oui, car il est surnommé l'ogre des Ardennes. À son procès en mars 2008, la cour d'assises a condamné Michel Fourniret à la perpétuité incompressible pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de 7 jeunes filles entre 87 et 2003. Son épouse Monique Olivier a été condamnée, elle, à la perpétuité accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans. Mais c'est pas fini. Un autre procès Fourniret va s'ouvrir mardi après-demain aux assises de Versailles pour le recel du magot, du gang des postiches et du meurtre d'une certaine Farida Amish. Vous allez comprendre le rapport. Bonsoir Oli Pori-Santoro.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous écrivez pour des magazines aussi divers que VSD, Capital, Valeurs Actuelles ou Closer. Ouais. Et vous venez de publier un livre-document, ça s'appelle Le Fils de l'Ogre. C'est aux éditions Max Milo. L'Ogre, c'est évidemment Michel Fourniret. Il a eu un enfant avec sa dernière épouse Monique Olivier. Cet enfant s'appelle Selim. C'est lui le fils de l'Ogre. Il est devenu votre ami. Comment s'est fait la rencontre ?
Très simplement, c'est-à-dire que nous sommes en 2013 à l'époque, je ne connais absolument rien de l'affaire Fourniret et je tombe par hasard sur une rediffusion de Faites entrer l'accusé consacrée à l'affaire Fourniret qui se termine justement par ces mots. Selim, l'enfant du couple diabolique, a depuis refait sa vie dans le sud de la France, du côté de Nice. Moi, en tant que journaliste niçois, j'ai senti à ce moment-là que j'avais une carte à jouer. Et si vous voulez tout savoir, j'ai lancé des recherches et je l'ai très très vite retrouvé, malgré le fait qu'il avait depuis changé d'identité.
Selim, c'est pas son vrai prénom.
Non.
Il est le troisième fils de Monique Olivier, le cinquième de Fourniret. Il a été qualifié d'accident par sa mère. Quand il était bébé, il servait d'appât pour mettre en confiance les victimes du couple diabolique. Question évidente, dans quel état psychologique se trouvait-il qu'on voulait rencontrer ? Dans quel état psychologique se trouve-t-il ?
Quand je l'ai rencontré, il ne parlait plus du tout de cette affaire. C'est quelque chose vraiment qui... C'est un sujet qu'il évacuait d'un revers de manche. Il ne voulait plus du tout en entendre parler. Il accepte d'en reparler à moi, un journaliste, alors que je ne le connais pas. Et le lendemain de notre rencontre, c'était pour les besoins de l'interview fleuve publiée dans les colonnes du magazine VSD, il reçoit une lettre de Michel Fourniret. Hasard du calendrier totalement improbable. Il pense que je suis dans le coup à ce moment-là. Et je lui explique que non, pas du tout. C'était vraiment un appel du destin pour moi. Et du coup, c'est à ce moment-là que je décide de lui proposer de poursuivre cette relation épistolaire avec lui qui va aboutir justement à l'aveu de meurtre, dont celui de John Aparish.
Parce qu'il faut expliquer que c'est lui qui écrit avec son écriture, mais c'est vous qui dictez.
Exactement.
C'est vous qui tenez la main,
c'est
si j'ose dire.
C'est moi qui suis rentré petit à petit, grâce à Selim, par son entremise, dans le cerveau de Michel Fourniret, pour le piéger de l'intérieur, le dynamiter, jusqu'à lui faire avouer des crimes et le faire pleurer en prison. C'était le but, le torturer psychologiquement.
On va le raconter après, parce que vous l'avez rencontré. D'abord l'actualité, oui. Cette affaire de recel et de meurtre, qui vont être jugées mardi à Versailles. On sait que Michel Fourniret avait acheté un château en Belgique grâce aux confidences d'un compagnon de cellule.
Château du Sautou.
Jean-Pierre Elguarche, qui appartenait au fameux gang des postiches, 27 hold-up dans les années 80. Quel rapport avec Farida Amish ?
Si vous voulez, quand Fournieret purge sa peine à Fleury Mérogis, il partage sa cellule avec Elguarche. Elguarche qui, à l'aube de sa sortie de prison, va dire à Fournieret, écoute, je vais te dire où est enterré le butin du gang des postiches, tu vas aller voir ma femme, et elle va te dire où il est enterré, vous allez le déterrer, tu vas prendre une minuscule partie et tu donneras tout le reste à ma femme. Fournieret acquiesce, sauf qu'au moment de partager le butin, il va empaler la dite Farida avec une baïonnette et s'emparer du magot et acheter un château avec. Et c'est là le seul regret. Fournieret me l'a dit droit dans les yeux en prison. Si j'ai un seul regret, ce n'est pas les victimes, ce ne sont pas les petites filles, c'est Farida. Je n'aurais pas dû faire ça car Elguarche, c'est vraiment un chic type. Ce sont ses mots.
Alors au départ, il faut dire que vous y avez mis en tête de retrouver le magot du gang des postiches, vous et son fils que tout le monde imaginait enterré quelque part. Ouais. On va le dire tout de suite, vous avez fait chou blanc.
Si vous voulez, c'est Fournieret lui-même qui nous met sur la piste de ce butin. Un trésor, entre guillemets, à faire pâlir tous les banquiers de la planète. C'était une façon pour lui de nous manipuler. Il faut savoir que Fournieret, toutes ces dernières années, il envoyait des mandats cash à Selim. Et il menaçait de couper les robinets à chaque fois que nous l'attaquions entre les lignes. À chaque fois que nous le torturions psychologiquement. Parce qu'encore une fois, le but, c'était oui de trouver le butin du gang des postiches, mais aussi de rendre les coups. Permettre à Selim de se venger de ce père qui lui a littéralement gâché la vie. Alors, et le livre se termine justement par une carte au trésor totalement inédite qui montre où a été enterré le butin. Et c'est ce que nous apprenons dans le livre, c'est que c'est Selim, avec ses propres mains, lors de l'arrestation de Michel Fournieret, qui enterre le trésor du gang des postiches.
Le reste du trésor, parce que tout n'était pas là. Le plus dingue, c'est que vous êtes parvenu, vous nous l'avez dit, à rencontrer Michel Fournieret en prison à la maison centrale d'Ensisheim,
oui.
Avec son fils. Tout est retranscrit dans l'avant-dernier chapitre. Vous l'avez fait de mémoire ou vous avez tout enregistré? Parce que les propos sont hallucinants.
Ben non, tout a été fait de mémoire, en étroite collaboration avec Selim, qui était là ce jour-là. Et évidemment, il est interdit de filmer en prison, ni d'enregistrer, donc nous avons respecté la loi à ce niveau-là.
Oh, dis donc, quel menteur, j'ai lu votre livre en entier, vous aviez une petite clé USB cachée.
Oui,
donc elle n'a pas fonctionné.
Ah non, on me l'a enlevé.
Voilà,
on
ne dit pas que c'était interdit.
On a pensé qu'il s'agissait d'un canif, donc ça a été un peu compliqué au niveau du portique de détecteur de métaux. Oui. On l'a retiré, malheureusement.
Il s'attribue devant vous la mort de Farida Hamish. Il dit également qu'il a quelque chose à voir dans la mort de Johanna Parrish, qui était une Anglaise pour laquelle on n'avait pas la solution, l'élucidation du meurtre.
Et c'est moi qui ai annoncé à Monsieur Roger Parrish ce que Fournieret m'avait dit entre quatre murs.
Et il révèle
ce qui a déplu à la police.
Et il révèle qu'il était présent au procès Ranucci en 76.
Tout à fait.
Ranucci, je rappelle pour les plus jeunes, qui avait été le premier condamné à mort sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.
Tout à fait.
Donc peut-être que Ranucci était innocent.
J'ai réussi à montrer, à faire dire par un moyen détourné à Michel Fournieret qu'il était bel et bien présent ce jour-là. Mais si vous voulez, si on veut parler de l'affaire Fournieret, il faut tout dire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a voulu m'empêcher de dire. Ce livre était censé sortir il y a déjà un an dans une maison d'édition belge.
Ouais.
Des gens se sont interposés, des gens m'ont menacé, des gens s'en sont pris à Selim. On a voulu nous empêcher de dire que, par exemple, Michel Fournieret n'était pas un loup solitaire, mais qu'il était officiellement membre de la franc-maçonnerie au Grand Orient de France, dans une loge qui s'appelle la Loge des Frères Unis Inséparables. Michel Fournieret était sous l'autorité d'un maître à l'époque, d'un vénérable maître, comme on dit, qui s'appelle Deschamps. Qui lui commandait des machines spéciales entre guillemets pour son laboratoire. Moi, j'aimerais savoir ce que veut dire tout ça.
Moi, je veux juste dire à nos auditeurs, que ces propos n'engagent que vous.
Bien sûr, non, ce sont des lettres de Michel Fournieret que je retranscris dans mon livre noir sur blanc, sans
d'accord.
rien ajouter. J'ai ces lettres en ma possession que j'ai transmis évidemment aux enquêteurs.
Mais il peut également vous avoir manipulé. C'est sorti chez Max Milo. Ça s'appelle Le Fils de l'ogre. Merci beaucoup, Oli Pori-Santoro, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
À suivre notre page média. Mardi, France 2 va diffuser un document exceptionnel, Histoire secrète de l'antiterrorisme. Sans détour, les chefs des services de renseignement, les policiers, les magistrats racontent 30 ans de lutte. On découvre notamment des mensonges d'État pour ne pas affoler la population ou pour pouvoir négocier en douce à l'insu de la justice. Son auteur Patrick Rothman est avec nous. Et puis une enquête qui vise le CSA sur les conditions de la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. C'est un autre dossier. À tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h38 et dans votre grand journal du soir, on s'intéresse aussi aux médias. Aujourd'hui, Philippe Vandel, vous recevez Patrick Rothman.
Bonsoir Patrick Rothman.
Bonsoir.
Vous êtes auteur, surtout auteur de documentaires, vous êtes une référence en la matière, vous avez créé l'émission Les Brûlures de l'Histoire et la mardi, France 2 consacre toute sa soirée à votre documentaire. Il s'appelle Histoire secrète de l'antiterrorisme. C'est quoi l'idée ?
L'idée, c'est de faire raconter par ceux qui ont vécu cette histoire, qui l'ont menée, 30 ans de lutte antiterroriste en France, de la rue des Rosiers à aujourd'hui de pénétrer au cœur de ce système antiterroriste et d'expliquer comment il a évolué.
Pourquoi l'adjectif secret, secrète en l'occurrence dans le titre ?
Justement, là, ceux qui s'expriment dans le film, ce sont les acteurs de l'histoire. C'est eux qui l'ont faite, c'est eux qui l'ont écrite. Donc c'est des patrons des services.
Il y a Bernard Sforcini, il y a le juge Trévidic, il y a le juge Bruguière. J'ai l'impression que tout le monde est là.
Il y a les grands magistrats, il y a les grands flics, comme on dit, il y a les grands agents, il y a les agents de la DGSE, de la DST, et il y a des gens qui n'ont jamais parlé devant une caméra. Et c'est eux qui racontent de l'intérieur l'action qu'ils ont menée.
Comment avez-vous réussi à les convaincre de parler face caméra ?
Ça s'est fait assez facilement. Ils ont accepté. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient confiance dans le sérieux du travail qui serait fait. Et donc, ils ont accepté. Ça n'a pas été un problème.
Alors, ça commence par l'attentat de la rue des Rosiers chez Goldenberg. On était été 82. Le commanditaire, je raccourcis, était la Syrie, mais l'exécutant était le groupe Abou Nidal. Je découvre ça dans votre documentaire. La division antiterroriste, qui était naissante à l'état d'embryon, ils étaient seulement 35, ils avaient 4 voitures seulement, passe un accord non écrit avec le groupe Abou Nidal.
D'un côté, vous avez Yves Bonnet qui a pris ses contacts avec le groupe Abou Nidal pour sanctuariser la France, alors que pendant le même temps, et le juge Bruguière qui instruit l'affaire, et la brigade criminelle qui enquête, sont tous les deux à la recherche de ce fameux Abou Nidal. Pendant ce temps-là, la DST le rencontre.
Et là, la division antiterroriste passe un accord non écrit avec le groupe Abou Nidal, mais c'est plus compliqué que ça. Dans votre documentaire, vous faites parler Alain Chouet, qui est responsable de l'antiterrorisme à la DGSE, les services spéciaux qui agissent à l'extérieur du territoire.
C'est pas vrai qu'on négocie pas avec les terroristes, on négocie avec les terroristes. Et nous sommes faits pour ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse dans le secret, parce que c'est des choses que l'État ne peut pas reconnaître et ne doit pas reconnaître. Si on commence à admettre qu'on négocie avec les terroristes, on est fichu sur tous les plans. Donc on va confier ça à des gens qui le font dans le plus grand secret et dans la clandestinité, c'est-à-dire les services spéciaux.
Ce sont donc des décisions politiques que les services ne prennent pas tout seuls. Votre conclusion, c'était que le président, en l'occurrence François Mitterrand, était informé.
C'est pas ma conclusion, c'est un des acteurs principaux de cette histoire, qui était Louis Caprioli, qui était la division antiterroriste de la DST, qui dit, avec l'expérience de 25 ans de lutte antiterroriste, qui dit « aucune décision de ce type n'est prise sans l'aval des autorités politiques ».
Et puis il y a du mensonge. Pendant la vague d'attentats au printemps et aux Galeries Lafayette, les grands magasins, on sait maintenant qu'ils ont été commandités par l'Iran, mais à l'époque, la thèse officielle était l'acte d'un isolé. Or, le juge Marceau vous fait une révélation.
Oui, le juge Marceau qui vient d'arriver, il raconte dans le film que, en fait, la brigade criminelle l'a mis sur la fausse piste de poseur de bombes isolé, alors que, évidemment, derrière, c'est un attentat qui vient du Proche-Orient et du Moyen-Orient. On ne veut pas affoler la population, on est à la veille de Noël. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que derrière, il va y avoir 13 attentats toute l'année 86 qui va créer une situation apocalyptique de drame en France.
Alors, en voyant votre documentaire, Patrick Rothman, parfois on est rassuré, parce qu'on se dit c'est formidable, tous ces services travaillent pour nous. Et parfois, on est très très inquiet, parce que quand vous décrivez la guerre des polices entre les services plus la justice, on se dit, il y a des morts qui auraient pu être évitées.
C'est tout le problème de la lutte antiterroriste, c'est que c'est un terrain extrêmement compliqué. Et c'est vrai que pendant des années, il y a eu une véritable guerre des services qui paralysait en fait le système complètement. La réalité, c'est que le système antiterroriste français qui s'est mis en place pendant des années s'est amélioré au fil du temps. Et même dans les années 90-2000, on est arrivé à un moment où ce système était incroyablement efficace.
Tout à fait autre chose. On va parler du terrorisme islamique. Bernard Sforcini raconte l'arrestation de Mohamed Ben Saïd, qui était un terroriste, chef de réseau terroriste, qui en avait commis plusieurs d'attentats et qui allait en faire commettre un nouveau sur un marché à Ouazem, près de Lille. On l'écoute.
Lorsque Ben Saïd est amené dans les locaux de la 6e de CPJ, il dit « Ok, j'ai compris. Moi, j'ai perdu. Dans 6 mois, 1 an, 10 ans, d'autres viendront. On est chez nous ici. C'est comme ça. Vos femmes porteront le hijab. »
Et là, on est presque sur la thèse du grand remplacement. Vous n'allez pas vous faire que des amis chez les belles âmes, Patrick Rothman.
On a recueilli plus de 50 heures de rush, d'interviews de ces hommes qui ont été au cœur de cette action. Parce qu'en fait, le film raconte à la fois ce qu'a été l'évolution du terrorisme. On est passé d'un terrorisme d'État des années 80 à un terrorisme qui vient de notre propre territoire. Et en même temps, le film raconte comment le système français s'est mis en place et a évolué pour lutter contre ce système.
Vous dénoncez des dysfonctionnements, je ne peux pas tout raconter, mais dans l'affaire Mera, Bernard Sforcini, qui était à l'époque le patron de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, Sforcini révèle que la police judiciaire avait l'adresse IP, donc l'ordinateur de l'acheteur de la moto qui a permis le premier meurtre, mais pourtant, personne ne lui a rien dit.
De Bernard Sforcini au procureur Molin, ils racontent tous qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Dans le film, il y a un moment, je pense, qui est très puissant et très fort, qui est raconté par le patron du Red de l'époque, Emory de Hautecloque, qui raconte son face-à-face de 20 ou 30 heures avec Mera, comment il s'est fait tirer dessus, comment il a négocié avec Mera. C'est un moment, je pense, de télévision extrêmement puissant.
Si je puis me permettre, il manque une question. Pourquoi n'ont-ils pas essayé de l'endormir avec des gaz, puisqu'ils avaient bouclé tout le quartier, tout le bâtiment?
Réponse à votre question, les murs étaient trop épais pour les percer et faire passer des tuyaux de gaz dedans.
Merci beaucoup Patrick Rothman. Je rappelle, Histoire secrète de l'antiterrorisme, je vous le conseille. C'est un document incroyable, ça passe mardi sur France 2 à 21h. Merci d'avoir été ici parmi nous à Europe 1.
Merci à vous.
18h45, vous êtes toujours sur Europe 1 et on va rester dans les médias. Philippe Vandel, Renaud Revel viennent nous rejoindre.
Bonsoir Renaud Revel.
Bonsoir Philippe.
Alors aujourd'hui dans votre chronique média, des infos exclusives qui pourraient embarrasser des gens très haut placés.
Oui, ça concerne le conseil super religieux qui s'apprête à vivre des jours difficiles avec la conclusion d'une enquête judiciaire démarrée au lendemain de la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions.
Ça concerne le CSA ou ça concerne Delphine Ernotte?
Ça concerne le CSA et c'est un feuilleton en trois étapes. Cette affaire a démarré à l'automne 2015 à la suite d'une plainte déposée par un petit syndicat de France Télévisions, la CGC, qui contestait à l'époque les conditions de la nomination de Delphine Ernotte. À l'époque, la presse elle-même reprochait effectivement l'opacité de la nomination d'Ernotte, les conditions dans lesquelles s'était déroulé le scrutin, les pressions qu'avait subies le CSA durant tout ce processus de nomination et trois tours de scrutin, ça avait été un pataquès absolument, absolument épouvantable.
Ça, c'est la première étape. Deuxième étape.
L'ouverture d'une enquête judiciaire. Elle a été confiée il y a trois ans maintenant à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Cela même, d'ailleurs, qui avait auditionné Nicolas Sarkozy à l'époque. Un juge d'instruction a été nommé et l'enquête a duré trois ans. Les policiers ont auditionné au total une trentaine de personnes, des membres du CSA, des anciens candidats à la présidence de France Télévisions, des membres du service du CSA, des journalistes, l'ancien patron des programmes de France Télévisions, Pascal Joseph, qui était candidat à l'époque, et l'actuel président délégué de la Ligue professionnelle de football, Didier Quillot.
Ça n'a rien à voir avec le foot, c'est juste qu'il était candidat lui aussi.
Lui aussi. Des perquisitions ont eu lieu au CSA, des documents ont été saisis, l'ordinateur de Vichramec, le président, avait été saisi.
Et alors maintenant, troisième étape.
Troisième étape, l'enquête a été bouclée la semaine dernière, tout simplement. Les policiers ont terminé leur travail, la juge d'instruction qui a été installée à la tête de cette enquête il y a trois ans a également terminé, et maintenant elle doit répondre à deux questions. Y a-t-il eu abus d'autorité, c'est le terme juridique, hein, ouais, de la part du président du CSA, Olivier Vichramec, sur des membres de son collège? Ça, les enquêteurs le disent aujourd'hui. Et Delphine Ernotte a-t-elle fait l'objet de traitements de faveur de la part de certains membres du CSA, soupçonnés eux-mêmes de trafic d'influence? On en est là aujourd'hui.
Mais alors là, qu'est-ce qui va se passer?
De sources de choses judiciaires, on m'indique aujourd'hui que des mises en examen ne sont plus à écarter. Inutile de dire que le climat d'incertitude et d'instabilité qui pèse sur le CSA aujourd'hui est terrible, parce que vous savez comme moi que Emmanuel Macron comme le gouvernement ont décidé de réformer le CSA de bout en bout. Et il est évident qu'on sait qu'aujourd'hui que ce ne sont plus les membres du CSA qui désigneront demain les patrons de chaîne publique. C'est tout simplement l'une des conséquences de cette affaire que l'Élysée connaît depuis le début et suit avec une grande attention.
En revanche, la nomination de Delphine Ernotte ne sera pas remise en cause.
Non, parce qu'elle est en fin de mandat, elle a un an à faire, elle ira au bout de son mandat, mais ça va de toute manière entacher son image et entacher sa fin de mandat.
Merci beaucoup Renaud Revel pour ces infos exclusives. À la semaine prochaine.
Merci Philippe.
Europe 1.
Le meilleur des émissions de cette semaine sur Europe 1, c'est dans un instant avec Laetitia Farine. Et puis, on va voir qu'il est très simple d'acheter une voiture en ligne avec Pierre de Villeneuve dans la rubrique Tout roule. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous n'avez pas eu le temps de tout écouter sur Europe 1 cette semaine, admettons, rien n'est perdu, c'est notre instant replay. Chaque dimanche, Laetitia Farine sélectionne pour vous et pour nous trois émissions de la semaine à réécouter sur Europe1.fr. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors la première émission que vous nous recommandez.
Pourquoi ne réussit-on pas à contrôler les violences en milieu scolaire? C'était le thème du tour de la question jeudi de 10h à 11h à l'occasion de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Le même jour, TF1 a diffusé un téléfilm événement qui a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs. Un téléfilm sur la vie de Jonathan Destin. Jonathan Destin qui était d'ailleurs l'invité de Wendy Bouchard. En février 2011, après avoir été harcelé quotidiennement pendant 6 ans, Jonathan décide de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. 72% de son corps est brûlé, 2 mois de coma et et 20 opérations plus tard, il se relève peu à peu et il raconte son histoire dans un livre, Condamné à me tuer, une histoire qu'il a partagée au micro d'Europe 1. Écoutez.
Ça a commencé vraiment par des petites choses en CM2, des petits chromos.
Sur votre physique ?
Voilà, sur mon physique, sur mon apparence. Puis ensuite, quand je suis rentré en 6e au collège, là c'était de plus en plus fort. Je me cachais toujours dans les cages d'escalier ou dans les toilettes où il y avait personne en fait. Donc j'avais peur d'aller en récréation et soit de me faire traiter de tous les noms ou de me faire tabasser. Pour moi, il n'y avait rien de bien. J'allais à l'école pour souffrir en gros.
20 opérations, excusez-moi. Âgé aujourd'hui de 23 ans, Jonathan Destin dirige une association de soutien aux victimes du harcèlement scolaire.
Alors la deuxième émission que vous nous recommandez, Laetitia.
C'est l'émission C'est arrivé demain. C'était ce matin de 9h à 10h à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice de 1918. Patrick Cohen a reçu dans ses studios Lucie Ténière, auteure du livre Madame, vous allez m'émouvoir et ça émeut. Un livre sous forme d'enquête grâce à des lettres retrouvées. Lucie Ténière retrace l'histoire de sa famille, notamment celle de son arrière-grand-père Paul, médecin dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Une histoire bouleversante par l'horreur de la guerre, mais pas seulement.
Dans ces lettres, il y a un trésor et un secret de famille. Le secret, c'est que l'histoire entre Paul et votre arrière-grand-mère Juliette est née de la mort de son frère François dans une tranchée, parce que cette mort a bouleversé Juliette.
Un jour, en fait, je suis contactée par mon cousin qui me dit « Lucie, j'ai une pépite pour toi ». Ce sont les lettres d'amour de nos arrière-grands-parents. Et il m'envoie un extrait de lettre qui est écrit par Juliette. Et je lis cet extrait où Juliette dit « Bonsoir mon amour, je m'endors mes lèvres sur les tiennes ».
C'est beau, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'émission pour vous plonger dans cette saga familiale hors norme. Madame, vous allez m'émouvoir, ça vient de sortir et c'est chez Flammarion.
Et là Laetitia, vous allez terminer en musique.
Oui, et musique, c'est le titre de l'émission d'Émilie Mazoyer. Lundi soir à 20h30, elle recevait l'incomparable Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque qui vient de sortir son 3e album solo, Trafic. Un chanteur avec beaucoup d'humour et une pointe de philosophie.
Pour moi, le trafic, c'est plutôt le mouvement. Ça serait l'inverse du blocus ou de l'embargo des choses qui n'avancent pas. Et je trouve que c'est nécessaire d'avancer, d'essayer de pas tourner en rond, de se poser cette question-là. Sinon, oui, il est né à Los Angeles, au contact de différentes personnes.
Atelier d'écriture, c'est ça ?
Oui, ça a été déclencheur, les ateliers d'écriture. C'est jouer le jeu d'aller à la rencontre d'artistes qu'on connaît pas forcément, de se retrouver une ou deux journées en studio.
Et ces rencontres donnent un album au texte très travaillé avec des mélodies souvent dansantes qui amènent un peu de lumière sur des chansons au sujet sombre comme l'addiction ou même la maladie d'Alzheimer. Écoutez.
Comme quoi, on peut vraiment danser sur tout, même sur, je m'en souviens plus, la maladie d'Alzheimer.
Exactement. Et oui, c'était Hope, le dernier single de Gaëtan Roussel. Il est en tournée à partir de mardi prochain dans toute la France.
Toutes ces émissions sont évidemment réécoutées sur europe1.fr et sur l'appli mobile d'Europe 1. Merci beaucoup Laetitia Farine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
18h54, vous écoutez Europe 1. Alors il paraît qu'acheter une voiture en ligne, c'est possible, Philippe Vandel.
Tous les dimanches, c'est Tout roule, la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors l'achat d'une voiture, c'est évidemment un investissement. Et pourtant, vous nous dites qu'aujourd'hui, ça peut se faire d'un seul clic sur Internet.
Oui, il est loin le temps où on allait au Grand Palais choisir sa Dauphine ou sa Frégate. Mais il est loin aussi maintenant le temps où on allait en concession un peu au pif sans savoir. De nos jours, on sait déjà tout chez soi à propos de sa future voiture. Le modèle, la motorisation, la couleur, les options, on a les configurateurs avec l'image en 360. Et ce qui se passe, c'est l'effet boule de neige. Tout le monde copie tout le monde, à tel point qu'aujourd'hui, on achète une voiture plus facilement qu'une cravate. C'est presque flippant.
Mais vous parlez des voitures neuves ou également d'occasion ?
Les deux. Les neuves, vous les trouvez directement sur les sites des constructeurs, mais aussi chez les mandataires comme Aramis. Et puis les occasions, évidemment, vous avez la bonne vieille centrale des particuliers, le bon coin aussi. Mais attention aux arnaques, à bien vérifier notamment le passage au contrôle technique. Oui. Toutes les voitures ne l'ont pas passé. Et puis, de nouveaux acteurs comme Karch, par exemple, contraction de car et de catch, donc voiture et attraper. On attrape la voiture avec son smartphone, nous dit son créateur Sébastien Mison.
Vous prenez une photo et puis vous obtenez quasiment une cotation marché de votre véhicule grâce à cette photo. On reconnaît le véhicule. Et puis ensuite, vous discutez avec des acheteurs potentiels au travers de l'application. En plus de cette identification du véhicule, on va apporter la sécurisation du paiement, on va garantir le véhicule sous certaines conditions. Ce qui fait qu'on apporte des services en plus par rapport à ces sites de petites annonces classiques.
J'ai pas tout bien compris. Comment ça marche ?
En fait, en photographiant la plaque d'immatriculation d'une voiture que vous voyez dans la rue, vous avez son prix exact. Ça vous donne le prix de la vôtre, évidemment, si vous photographiez votre voiture avec votre plaque d'immatriculation.
Mais attendez, ça veut dire que toutes les plaques de toutes les voitures sont répertoriées? Je croyais que c'était interdit, ça.
Non. Et celui...
Enfin, je croyais que seule la police avait droit à ce fichier-là.
Mais non, parce que ça vous donne justement une cotation de la voiture, c'est ce que dit Sébastien Mison. La plaque d'une voiture qui est à vendre, par exemple, dans un garage, mais aussi une plaque, une voiture qui vous plaît dans la rue, bah, vous dites, tiens, je voudrais la même, c'est pratique. Mais attention, carte, je vous facture 90 euros. Il y a plein de services, on l'a entendu avec notamment les transactions, ils s'occupent de tout. Et puis un autre site, yacaroulé.fr, là, à la base, on est dans la pièce détachée. Vous avez un peu comme Oscaro.
Oui.
Mais justement, se sont dit les fondateurs, on va aussi proposer des voitures entières à la vente, car tout va de pair. Et c'est ce que nous explique la directrice Lily Popraski.
Alors nous, on fait quelque chose de très fonctionnel. Vous rentrez l'immatriculation de votre voiture et l'annonce se déroule. Avec un simple smartphone, vous enregistrez une vraie vidéo et pas une compilation d'images. Vous enregistrez donc le son de votre voiture. Mais on a aussi quelque chose de très différenciant et où on ne pouvait être que les seuls à la porter. C'est que si demain, vous voulez acheter on va dire une Peugeot 208, vous allez donc sur les annonces. Et là, sur l'annonce que vous sélectionnez, vous allez trouver aussi le coût des pièces pour l'entretien à prix web.
Et des sites comme ça, il y en a d'autres?
Quelques-uns, d'autres à venir sans doute, puisque tout le monde se passe le mot. Alors, c'est affolant, hein, comme le marché des voitures est présent en France, alors que certains courants très urbains nous disent que la voiture, c'est fini. La bagnole, c'est quelque chose en France, disait le président Pompidou. C'est Emmanuel Macron qui nous rapportait cette citation mardi dans la matinale d'Europe 1. Donc, tout cela est loin d'être fini.
Ça tombe bien parce que moi, je comptais vous réentendre dimanche prochain. On vous retrouve dans Tout roule, Pierre Devineau, dimanche, juste avant 19h sur Europe 1. À la semaine prochaine.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Laurence Dezélé, à tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h, merci d'avoir choisi Europe 1.
Philippe Vandel sur Europe 1.
En marge des commémorations du centenaire du 11 novembre, s'est ouvert à la Villette le Forum de la Paix. On y a célébré le multilatéralisme, le dialogue entre les peuples. Mais par une ironie de l'histoire, Trump et Poutine ont été les grands absents. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cela dit du monde en train de naître? Réponse avec l'un des plus fins spécialistes de géopolitique, Bruno Tertrais. Et puis dans notre débat de la dernière demi-heure, nous dresserons le bilan de l'itinérance mémorielle du président Macron et nous anticiperons l'énorme manifestation qui se prépare pour le 17 novembre, les Gilets jaunes qui veulent bloquer tout le pays pour protester contre l'augmentation du prix des carburants.
Et si vous avez des choses à dire sur les Gilets jaunes, exprimez-vous, publiez votre commentaire sur europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et tout de suite, le journal présenté par Laurence Dezélé et vous, Philippe Vandel.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors que Donald Trump fait bande à part en se rendant au cimetière de Suresnes, le président Macron préside le Forum de la Paix à la Grande Halle de la Villette. Ce matin, 72 chefs d'État et présidents se sont rendus sous l'Arc de Triomphe pour assister aux commémorations de l'armistice. Le public était venu nombreux, lui aussi. Dans un instant, on écoutera la réaction de certaines personnes qui avaient décidé de faire le déplacement. Et puis à Marseille, le geste héroïque d'un jeune homme et de policiers municipaux. Ils ont certainement sauvé la vie de plusieurs personnes prises au piège d'un incendie.
Europe 1.
Et on commence par le Forum de la Paix qui a débuté ce soir à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Un forum international qui va durer jusqu'à mardi et qui réunit donc des dizaines de dirigeants mondiaux. Il a vocation à se reproduire tous les ans. On a ressenti dès le début de ce forum l'inquiétude de certains chefs d'État ou de gouvernement devant la montée du racisme, de l'antisémitisme ou encore du populisme. Adrien Beck, vous êtes pour Europe 1 au Forum de la Paix. Donald Trump a comme souvent fait cavalier seul. Il a fait impasse sur le forum, préférant se rendre au cimetière américain de Suresnes.
Oui, avec des tables rondes sur le climat, la coopération internationale, Donald Trump qui a quitté les accords de Paris, qui privilégie les relations bilatérales, et bien Donald Trump pourrait peut-être un peu détonner dans cette agora au milieu d'une soixantaine de chefs d'État, dont Vladimir Poutine, réunis ici, porte de la Villette. Tous étaient ce matin sous l'Arc de Triomphe, image de paix, mais cette image ne doit pas nous faire crier victoire, avertissement d'Emmanuel Macron en ouverture du forum.
Ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre ? Et cela ne dépend que de nous.
Inquiétude partagée par Angela Merkel. La paix nous paraît parfois trop évidente, a mise en garde la chancelière allemande, citant les conflits au Yémen, en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui évoqué un engrenage semblable à celui des années 30. Des constats pessimistes donc en ouverture de ce forum qui dure jusqu'à mardi.
Adrien Beck, depuis le forum de la paix qui se tient en ce moment à la Villette, à Paris.
Mis à part les grandes semaines, des Français avaient aussi fait le déplacement jusqu'aux Champs-Élysées ce matin.
Et derrière les barrières, ils ont assisté parfois de très loin aux cérémonies, dans des conditions de confort restreintes. Mais peu importe, ils étaient là, Théo Manval.
Ils ont bravé la pluie pour être la père et fille sur les Champs-Élysées. Jean-Gilles tenait à venir avec Aliénor, 11 ans, pour que les traces de la guerre ne s'effacent jamais, comme l'a dit le président à la tribune.
Il a remémoré ce que nos aïeux ont vécu, le silence, le respect, c'est bien.
Ils ont souffert pour nous, dans la pluie, dans le froid, et voilà.
Maintenant, il est plus d'une heure et c'est fini. La guerre est finie, il y a 100 ans.
Les cloches se mettent à sonner, en effet, et ce sont d'autres souvenirs qui remontent. Ce d'Irénée, venu de Vendée, pour son grand-père, héros de Verdun.
Il a fait partie du contingent des Vendéens et des Bretons qui ont été à Verdun. Il a combattu pendant un an et demi et il est revenu assez sérieusement blessé. On parlait assez peu des horreurs. Ce qui était très important, c'était de passer à autre chose très très vite. Le plus jamais ça était vraiment ce qui restait.
Et c'est aussi le sens qu'a voulu donner Emmanuel Macron à son discours, mettant en garde contre le nationalisme. Message adressé entre autres aux jeunes, comme Robin, venu drapeau à la main.
1918, c'était l'exaltation de la puissance des vainqueurs face à l'Allemagne qui était vaincue. On sait ce que ça a donné après. C'est important aujourd'hui, justement, un discours de paix disant le nationalisme n'est pas quelque chose qu'il faut promouvoir. Le fait d'avoir tant de chefs d'État montre qu'on est ensemble ici pour l'objectif commun qui est préserver la paix dans le monde.
Préserver la paix, discours repris à l'unisson, notamment par Donald Trump cet après-midi au cimetière américain de Suresnes.
Merci Théo Manval.
Ce matin, Europe 1 a mis en place une édition spéciale autour des célébrations du 11 novembre.
Oui, et Fabrice Dalméda, le consultant histoire d'Europe 1, était présent. Un moment fort au cours de la cérémonie sous l'Arc de Triomphe a particulièrement retenu son attention.
Il y a une image qui est vraiment, j'allais dire, la plus emblématique. C'est vraiment l'image d'Emmanuel Macron prenant l'épée des mains du général Darry, se penchant pour raviver la flamme de soldats inconnus, mais se penchant d'une manière un peu particulière parce que derrière lui, il y avait ces lycéens qui se sont posés la main sur l'épaule, qui ont constitué une espèce de pyramide qui s'est avancée derrière lui. Ils ont posé la main sur son épaule et à mesure qu'il poussait avec l'épée, le cercle pour raviver la flamme, eh bien, il s'inclinait avec lui devant le soldat inconnu. Et au fond, cette image-là, c'était l'image, le passage de témoins vers les générations jeunes, celles qui n'ont pas vécu la guerre, celles qui vont devoir porter les valeurs que signifie cette tombe du soldat inconnu, cette dernière demeure d'un homme qui est mort pour défendre sa patrie, pour défendre au-delà de ça la liberté de sa patrie et pour défendre au-delà de ça le droit commun des peuples à exister.
Fabrice Dalméda, le consultant histoire d'Europe 1.
Europe 1.
Fabrice Dalméda, je le dis, qui sera avec nous dans notre grand débat à 19h30. Mais d'abord, dans un instant, on va parler d'un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui dans un immeuble de Marseille et de l'acte de bravoure de plusieurs personnes qui ont permis de sauver des vies.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
19h07, la suite du journal, Laurence Dezélé, Philippe Vandel.
Un incendie à Marseille qui aurait pu très mal finir sans l'intervention notamment d'un jeune homme.
En effet, on a l'impression que le sort s'acharne en ce moment sur la cité phocéenne, mais bon, cette fois, l'histoire se termine bien. Un incendie a frappé un petit immeuble de 2 étages dans une rue piétonne du quartier populaire du Panier, à Marseille. 5 personnes ont été blessées, dont un homme incommodé par les fumées. Pris de panique, une mère de famille de 38 ans et ses 2 enfants de 4 et 11 ans ont sauté par la fenêtre du 2e étage. Et ils doivent leur salut à leur voisin, un collégien de 14 ans, Stéphane Frangy.
Le pire est évité grâce au bon réflexe de Mohamed.
Je prends le matelas de ma chambre, j'ai le mis dehors, j'ai crié dans la rue, sauté, et la dame, elle a sauté ainsi que les 2 enfants.
Ils sont 4 au total à tenir le matelas à bout de bras. Mohamed, 2 policiers municipaux et 2 autres voisins, dont Kamel, terrorisés au moment de réceptionner les chutes.
Avec la fumée, on ne voyait pas. Quand il y a une petite visibilité, j'ai dit on voyait le petit, la petite fille, et après c'était la maman, c'était la plus difficile parce qu'elle était enceinte. J'avais peur pour l'enfant ou pour elle. Donc on a tout fait, on a mais toutes nos forces pour qu'elle ne touche pas le bitume.
Les 5 résidents sont hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger, mais ils ne regagneront pas l'immeuble rongé par les flammes. Le plancher, la façade sont fragilisés et sécurisés par les marins-pompiers. Et c'est tout un quartier marqué par cette série d'événements à Marseille, témoigne la maire du secteur, Lisette Narducci.
On se pose beaucoup de questions. Moi, sur mon secteur, malheureusement, je déplore aussi un certain nombre de résidences dites dégradées. Tous ces événements qui s'enchaînent sont de nature à augmenter un peu l'anxiété.
Quant à Mohamed, il s'est vu décerner la médaille de citoyen d'honneur pour son geste héroïque. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et c'était le journal de Laurence Dezélé. Merci beaucoup Laurence.
Europe 1, 19h09.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Et cette semaine, on baigne dans la douceur comme ce week-end.
Tout à fait, minimal entre 7 et 16 degrés du nord au sud. L'après-midi entre 18 et 22, à un niveau donc de mi-avril. On conserve une très grande douceur, des plaines du sud-ouest surtout au Grand Est. En revanche, au nord, il fera 10 à 12 en moyenne. Côté ciel, du littoral aquitain, aux Hauts-de-France, bassin parisien, c'est pépin obligatoire, en tout cas en ce lundi, parce qu'il pleuvra toute la journée. Près de la Manche, temps variable et généralement sec. Et ailleurs, c'est plus clément, malgré un vent marin et un vent d'autan de plus en plus sensible, qui vont souffler jusqu'à 90 km/h.
Merci beaucoup, Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports sans pépins, c'est avec vous Cyril Dalmoinery. Bonsoir.
Bonsoir.
On espère, faut jamais le dire avant. Ah oui, tout de suite.
Hein,
oui, évidemment, on va parler de la route du Rhum, on va en Guadeloupe, c'est la 11e édition et surtout on va bientôt connaître le vainqueur.
François Gabart, toujours en tête mais moins rapide que Francis Joyon qui le talonne, le benjamin de la catégorie, a connu des avaries techniques, ce qui explique que son avance est fondue. Il va devoir cravacher avant d'aller chercher une arrivée libératrice. Corinne Boulou, vous êtes en direct de Pointe-à-Pitre.
Oui, Loïc Perron, effectivement, vainqueur de la Route du Rhum, il y a 4 ans, nous rappelait il y a quelques semaines que ce fut un exercice éprouvant, le plus compliqué et dangereux, nous disait-il, de toute sa traversée. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut progresser du nord de l'île vers le sud, où se trouve la ligne d'arrivée, près de Pointe-à-Pitre, en passant à l'ouest, par la côte sous le vent, où se trouve le volcan de la Soufrière, et là où les vents sont tellement changeants que parfois les voiliers sont même scotchés sur l'eau. Et puis, il y aura, Cyril, des virements de bord à faire dans peu de vent ou dans un grain, sans compter la présence d'une flottille d'embarcations venues à la rencontre des héros incapables d'anticiper les trajectoires des grands tirs trimarans. Le risque est permanent hein, avant d'entrevoir une arrivée dans la nuit tropicale, probablement aux alentours de 20h15 ici, 1h15 du matin en métropole. Pour le moment, vous l'avez dit, François Gabart, à 80 km de l'arrivée, conserve l'avantage sur Francis Joyon. Il est même plus rapide hein, sur cette dernière demi-heure. 40 ans après une première édition remportée pour 98 secondes, eh bien, l'histoire pourrait bien se répéter, Cyril, et les deux duettistes terminé dans un mouchoir de poche.
Impressionnant. Merci Corinne Boulou. On va parler de foot maintenant. 13e journée de Ligue 1 et Marseille enfin renoue avec la victoire.
L'OM met fin à une série de 4 revers consécutifs. Marseille s'impose face à Dijon 2-0. Yann Terrou.
Oui, l'essentiel est là pour l'Olympique de Marseille avec cette victoire 2-0 au Stade Vélodrome cet après-midi. Ouverture du score signé Lucas Ocampos en fin de première période. Jusque-là, l'Olympique de Marseille n'était franchement pas transcendant avec notamment un Kostas Mitroglou particulièrement maladroit face au but. Au vestiaire, l'Olympique de Marseille mène 1-0. Et puis juste après la pause, c'est Adil Rami qui détourne de la tête une frappe de Morgan Sanson qui permet à l'Olympique de Marseille de creuser l'écart 2-0. L'essentiel est là avec un Olympique de Marseille qui revient à 3 points du podium de la Ligue 1 et qui met un terme à une série de défaites assez importantes. Marseille l'emporte face à Dijon 2-0.
Et puis dans le derby de la Bretagne, Rennes et Nantes se neutralisent un partout. Johnson a marqué pour Rennes. Emiliano Sala lui a répondu, c'est son 11e but de la saison. Enfin, Bordeaux sous les yeux de son nouveau propriétaire Joseph Dagrossa et Caen ont fait match nul 0-0.
Et puis ce soir, j'aurais jamais cru dire ça à propos de ces deux clubs. C'est
incroyable.
Le choc des extrêmes entre Monaco 19e et le leader incontesté, le PSG.
Paris, 12 victoires consécutives. Monaco, un succès seulement depuis le début de la saison et une crise qui s'installe malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Thierry Henry n'a toujours pas gagné. Il est confronté à une cascade de blessures. Il s'en remet à un hypothétique exploit face au PSG.
Je pense que vous avez vu comment aussi des matchs de coupe, des fois où une équipe devait battre une autre à plat de couture et ça s'est pas passé. On a vu des belles histoires par le passé en Coupe d'Europe ou alors en Coupe de France. Donc voilà, faut qu'on arrive à rendre ce match un peu en match de coupe. Ça, c'est des points en général qu'on prend pas dans l'année et si on en prend, c'est un bonus. Nous, ça serait plus qu'un bonus, ça c'est sûr.
Thierry Henry avec Frédéric Hélion, Monaco PSG, c'est à 21h et on se retrouve dès 20h avec Lionel Rousseau et ses équipes.
Ça sera en direct sur Europe. Et puis ça joue également à l'étranger.
En Angleterre, Liverpool toujours invaincu. Les Reds ont battu Fulham 2-0. Chelsea et Everton se neutralisent 0-0. En ce moment, c'est le derby de Manchester entre City et United. Et pour le moment, 80e minute de jeu. Et c'est City qui mène 2-1 face à United avec Martial qui a marqué sur pénalty pour United. Et puis Arsenal est mené par Wolverhampton.
Oh, disons, 1-0, même pas que ce club
79e minute. Oui, c'est dans le milieu ouest de l'Angleterre. Oui, c'est un club de première ligue.
Oui, en Espagne, un mot du Barça ou pas du tout?
Eh bien, le Barça, c'est incroyable. Ils ont été battus par le Betis Séville. 4-3. Défaite donc du leader, le FC Barcelone.
Merci beaucoup, Cyril Delamonnerie. C'était votre journal des sports.
Europe 1.
En marge des commémorations du centenaire du 11 novembre, s'est ouvert à la Villette le Forum de la Paix. On y célèbre le multilatéralisme, le dialogue entre les peuples, mais par une ironie de l'histoire, Trump et Poutine en ont été les grands absents. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cela dit du monde qui est en train de naître? Réponse avec l'un des plus fins spécialistes de géopolitique, Bruno Tertrais, il est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir et on va parler géopolitique, Philippe.
Exactement, en marge des commémorations du centenaire du 11 novembre, s'est ouvert à la Villette le Forum de la Paix. On y célèbre le multilatéralisme, le dialogue entre les peuples et par une ironie de l'histoire, Donald Trump a été le grand absent. Bonsoir Bruno Tertrais.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Emmanuel Macron a déclaré dans son discours « Nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme et l'extrémisme qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. » Est-ce que vous partagez cette inquiétude ou est-ce que c'est une manière de resserrer les rangs en vue des élections européennes?
Ah non, je crois que l'inquiétude d'Emmanuel Macron, elle n'est pas feinte, elle est réelle. Je pense que comparer la période actuelle avec les années 1930 est un peu excessif. Je crois que la comparaison...
Ce qu'a fait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui met en garde contre un engrenage géopolitique semblable à ce qui a conduit à la Première Guerre mondiale et à celui des années 30.
Oui, mais justement, je pense que la comparaison faite par Antonio Guterres au Forum de la Paix, elle est plus appropriée. S'il y a une comparaison qui est pertinente du point de vue historique, c'est se demander si on n'est pas parfois dans un monde qui ressemble un petit peu à celui des années 1910. Pourquoi 1910 plutôt que 1930? Ben parce que, en fait, on a cette compétition montante entre la Chine et les États-Unis qui rappelle parfois à certains, et à mon avis c'est ce que voulait dire le secrétaire général de l'ONU, qui rappelle parfois la compétition entre l'Angleterre déclinante et l'Allemagne montante avant la Première Guerre mondiale.
Et la France n'était pas dans la course?
Et bien sûr que si, la France était dans la course. Mais d'ailleurs, il y a tout un engrenage, bien autour de ce qui s'est passé en 14. Et c'est pour ça que je trouve que la comparaison pertinente, c'est peut-être beaucoup plus celle des années précédant la Première Guerre. Attention, je suis pas du tout en train de vous dire, Philippe Vandel, que on est à la veille d'un grand conflit mondial. Pourquoi? Pour plein de raisons.
C'est ce que pense, avant que vous me donniez votre avis, monsieur Tertrais, c'est ce que pense Angela Merkel, qui a estimé, je la cite, que le projet européen de paix, né après 45, était menacé par la montée du nationalisme et du populisme. Angela Merkel.
Ça n'est pas faux, mais en même temps, nos démocraties sont beaucoup plus résilientes qu'elles ne l'étaient à la fois dans les années 10 et dans les années 30. On ne voit pas de pays qui manifestent un expansionnisme militaire animé d'une idéologie forte, essayant de capter par la force des ressources énergétiques. Donc, le monde a beaucoup changé. Il y a des cordes de rappel, comme on dit en diplomatie. Il y a l'Union européenne, elle est quand même là. L'ONU, elle existe. C'est pas la Société des Nations. Il y a aussi ce qu'on appelle le mécanisme de la dissuasion nucléaire qui fait que, c'est vrai que ça conduit à limiter les risques d'escalade militaire entre grandes puissances. Mais moi, j'ai été frappé par le fait qu'à la fois Antonio Guterres et Angela Merkel ont tous les deux fait référence au même livre, un livre assez extraordinaire dont on a beaucoup parlé en 2014 à propos de l'anniversaire de 14, un livre d'un historien qui s'appelle Christopher Clark, un historien australien, et qui s'appelle Les Somnambules et qui explique comment l'Europe en particulier a marché les yeux fermés vers la guerre. Donc ce sont des rappels historiques très utiles, mais je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste quand même.
Vous parliez de la lutte entre les États-Unis et la Chine, c'est un forum mondial pour la paix, mais sans les représentants de ces deux premières puissances économiques mondiales. Est-ce que c'est un échec?
Il est dommage que la Chine n'ait pas été représentée à haut niveau. Il aurait été anormal que les grands États parties prenantes de la guerre de 14 n'aient pas été là. Ils étaient à peu près tous là. Même Vladimir Poutine, qui pourtant il a fait la gueule toute la journée.
Ah bon, hein. Vous l'avez vu? Avait dit qu'il n'allait pas y aller. Finalement, il y est allé, m'avez-vous dit?
Oui, mais alors, je peux vous dire, il est arrivé de ce matin à l'Arc de Triomphe. Il arrive en retard, il arrive après les autres.
Il est arrivé dans sa voiture, il voulait pas faire le trajet à pied déjà.
Dans sa propre voiture. Je pense qu'en fait, il voulait montrer d'abord que c'était pas sa guerre, hein. C'est une position un petit peu différente de la Russie en 18. En tout cas, elle est déjà passée à autre chose. C'est la révolution. Et puis Poutine, il déteste.
Oui, parce qu'en 18, je précise, Poutine déteste. 1917 est passé par là.
Poutine déteste la révolution de 1917. Ouais. Sa période de référence, s'il fallait en choisir une, ça serait plutôt le stalinisme que le léninisme. Et puis, il faut quand même rappeler aussi que tous ces chefs d'État, ils sont pas venus quand Poutine a fait, lui, sa grande célébration en 2014, la fin de la grande guerre patriotique, comme on dit à Moscou. Et c'est vrai que personne n'était là à cause de l'annexion de la Crimée.
Alors vous nous dites, Poutine faisait la gueule, mais c'était prévu qu'il parle ou il était juste là en observateur, montrer sa présence?
Non, je ne sais pas s'il était prévu qu'il parle ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a assisté au discours d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel, d'Antonio Guterres, et puis il les a tous regardés totalement impassibles. Il était un petit peu ailleurs, je pense qu'il y a une stratégie délibérée, mais c'est vrai que c'était assez frappant, il était extrêmement froid, comme souvent à son habitude. Il était là sans être là, il était pas là en étant là quand même.
Pour le JDD, ce sommet est un sommet pour isoler Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
C'est un petit peu excessif, mais de manière assez diplomatique, je dois dire, président Macron a profité du fait que Donald Trump n'était pas là au Forum de la Paix, parce que Trump aussi, il a eu une attitude très particulière au cours de ces deux jours. Hein. Il n'a pas visité le cimetière de Boisbello, il est pas bon.
Il y avait du mauvais temps, il avait peur.
Ah bah oui, ça devait. Oui.
On lui a fait reprocher aux États-Unis. C'est pour cette raison que je me permets d'ironiser.
Il n'était pas là non plus au Forum pour la Paix, donc ça a permis justement Emmanuel Macron d'en remettre une couche, si j'ose dire, de manière tout à fait légitime, sur les vertus du multilatéralisme qui est parfois mise à mal par Donald Trump et d'autres États.
En l'occurrence, Donald Trump avait annoncé qu'il ne serait pas là.
Et c'est vrai.
Le Forum pour la paix doit réunir tous les défenseurs de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et là, j'aimerais me faire l'avocat de Trump. Dans le cas, par exemple, de la Corée du Nord, après des années de multilatéralisme qui n'ont pas donné grand-chose et de statu quo, Trump a obtenu des avancées parce qu'il prône lui-même le dialogue bilatéral. Déjà, il se parle.
Oui, c'est vrai que c'est toujours mieux de se parler que de se faire la guerre. Mais si ces deux chefs d'État, enfin ces deux leaders, Kim Jong-un et Donald Trump, se parlent, c'est pas tellement parce que Trump l'a décidé, c'est surtout que la Corée du Nord se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui militairement face aux États-Unis, parce que c'est sous le mandat de Donald Trump qu'elle a accéléré son programme de missiles et son programme nucléaire. Et désormais, la Corée du Nord a atteint le Graal stratégique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre le territoire américain. C'est ça qui a permis le sommet. Vous savez, ce sommet, il n'a été suivi d'aucune avancée concrète, sauf peut-être entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, donc c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est des beaux gestes, bien sûr, mais s'ils ne sont pas suivis des faits, et si Trump est déçu, vous savez, je pense qu'il faudra attacher nos ceintures, parce qu'à mon avis, Trump déçu, Trump pas content.
Il avait annoncé à la tribune de l'ONU, l'Amérique préférera toujours l'indépendance et la coopération à la gouvernance mondiale, au contrôle et à la domination. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Écoutez, là encore, au risque de passer pour un tueur référé d'Emmanuel Macron, qui à mon avis s'est quand même bien débrouillé pour cette séquence très compliquée des trois jours.
Non, Macron n'est pas seul, ils sont nombreux avec lui.
Ils sont nombreux avec lui. Je trouve que là, il a réussi ce numéro d'équilibrisme qui consiste à dire, y compris dans son discours de tout à l'heure, qui consiste à dire, écoutez, c'est très bien de défendre ses intérêts nationaux, mais il ne faut pas que ça soit non plus en oubliant nos valeurs et en oubliant que nous sommes dans un monde interdépendant. C'est très bien le patriotisme, mais il ne faut pas sombrer dans le nationalisme, parce que comme disait François Mitterrand, le nationalisme, ça conduit à la guerre, on l'a vu en 1914. Exercice d'équilibrisme très difficile, mais c'est vrai, face à une administration américaine qui déteste l'ONU. Vous savez, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, que je connais un petit peu, c'est un homme qui dit il faudrait couper en deux l'immeuble des Nations Unies à New York et le monde ne s'en porterait pas plus mal. Bon, alors, il n'a pas tout à fait tort d'ailleurs sur le fait que ce soit une organisation un peu bureaucratique. Mais ce sont des gens qui n'aiment pas effectivement l'ONU et les organisations multilatérales. C'est vrai.
Enchaînement tout trouvé, Monsieur Tertrais, le Forum pour la paix a vocation, si j'ai bien suivi, à devenir un rassemblement annuel. L'ONU ne remplit plus son rôle?
Ah, c'est autre chose. Parce que l'ONU, c'est le Parlement des États. Enfin, c'est une organisation de coopération essentiellement entre États.
On lui reproche parfois l'immobilisme.
Oui, c'est vrai.
De faire des réunions pour des réunions.
Oui,
et que rien de nouveau ne débouche.
Alors d'abord, l'ONU, c'est pas simplement le Conseil de sécurité, ce qu'on voit à la télévision, les grandes négociations. C'est aussi un travail de tous les jours, de beaucoup d'agences, de beaucoup de gens qui font du développement, qui s'occupent de réfugiés, qui s'occupent de programmes alimentaires. L'ONU, c'est tout ça.
Non, mais en l'occurrence, sur le sujet qui nous intéresse, qui est la paix.
Alors, sur la paix, le Conseil de sécurité, aujourd'hui, il est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a essentiellement un pays, la Russie, et parfois suivie par la Chine, qui est bien contente de se cacher derrière la Russie, et qui bloque beaucoup d'initiatives. Ça a été le cas notamment sur la Syrie. Donc, le droit de veto à l'ONU, aujourd'hui, il n'y a quasiment que la Russie qui l'utilise.
J'explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'il suffit qu'une personne vote contre pour que la décision ne soit pas adoptée.
Un des cinq qui vote contre, Russie, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, effectivement, États-Unis, bien sûr, et là, c'est bloqué.
Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on ne pouvait rien faire, par exemple, contre la Corée du Nord, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. C'était la Chine qui mettait son droit de veto.
Oui, encore que ça n'a pas empêché qu'il y ait des sanctions contre la Corée du Nord et c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui contribue à ce que la Corée du Nord préfère le dialogue aujourd'hui. Mais le Forum pour la paix, ça n'a pas vocation à remplacer l'ONU. Simplement, c'est beaucoup plus une organisation d'ailleurs, c'est beaucoup plus un forum, plus qu'une organisation à ce stade, qui est dirigé vers les ONG et la participation des sociétés civiles. Donc moi, je crois que d'ailleurs, que je ne pense pas que les fondateurs du Forum aient pour ambition de concurrencer de l'ONU. D'ailleurs, je sais même que ça n'est pas le cas du tout. En revanche, ça peut compléter...
Ils ont quand même eu l'idée que ce rassemblement soit annuel.
Absolument.
Donc ça sous-tend une intention.
Oui, et c'est annuel, ça sera annuel comme le forum de Davos est annuel ou d'autres organisations. Mais c'est vrai que la spécificité de ce nouveau forum, c'est de parler de la paix au sens le plus large du terme, c'est ce qu'on appelle la gouvernance globale. On parle aussi bien de développement, de ressources, d'énergie, de questions liées aux minorités, au climat naturellement, à l'environnement, etc. Donc ça va compléter plutôt le travail de l'ONU de manière, je pense, quand même beaucoup plus modeste. Et je crois savoir d'ailleurs que le prochain forum se tiendra plutôt côte à côte avec le 14 juillet, beaucoup plus qu'avec le 11 novembre. Cette année, pour cette première édition, c'était évidemment une occasion particulière.
Oh, disons oui, ça en fait des dates, parce que justement, on annonce le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là encore, il y aura des grandes réunions spectaculaires
Mais vous savez, les symboles, c'est important. Les grandes réunions spectaculaires, d'abord, ça veut dire que les gens se parlent. Tous ces chefs d'État qu'on a vus ce matin toute la journée, ils ont eu beaucoup de petites rencontres bilatérales. Ils se parlent, ils se connaissent, ils se touchent littéralement.
A-t-on appris dans l'après-midi, Poutine et Trump, qui devaient ne pas se parler, se sont parlé à l'Élysée. Vous confirmez?
Je ne sais pas, je n'y étais pas à l'Élysée.
Moi non plus, mais j'ai lu les journaux.
C'est toujours une bonne nouvelle que les chefs d'État et de gouvernement se connaissent personnellement, se voient, se sentent. Et ça la permet à ce que les crises, quand il y en a, escaladent un petit peu moins vite. Ça permet d'éviter certains malentendus. C'est aussi pour ça, par exemple, que Emmanuel Macron cherche à avoir toujours une relation très proche avec Donald Trump, même quand il se bagarre littéralement par tweet. Vous voyez, Donald Trump est arrivé en faisant un tweet absolument inouï en disant...
Macron avait insulté les États-Unis.
Il était en train littéralement de débarquer à Roissy. C'est quand même assez curieux. Mais je crois que la patience de Macron est plutôt bienvenue parce que justement avec un animal au sang chaud comme celui-là, il faut conserver une relation cordiale, même si on est d'accord à peu près sur rien, en tout cas sur beaucoup de choses.
Merci beaucoup Benoît Tertrais. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Europe 1.
Dans la dernière demi-heure de ce 18-20, notre débat où on va dresser d'abord le bilan de l'itinérance mémorielle du président Macron. Une semaine dans le nord et l'est de la France, tout ça pourquoi? Et puis on va anticiper l'énorme manifestation qui se préparerait pour le 17 novembre. Les gilets jaunes qui veulent bloquer tout le pays pour protester contre l'augmentation du prix des carburants. Nos débatteurs fourbissent leurs armes, ou du moins leurs arguments. On est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite.
Les Vérandas. 19h29, votre grand journal du soir se poursuit avec notre grand débat d'actu jusqu'à 20h sur Europe 1. Pour mener ce débat, bien sûr, Philippe Vandel. Et vous pouvez réagir à tout moment sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Avec nous, avec vous, Caroline Fontaine, vous êtes journaliste. Bonsoir Caroline Fontaine.
Bonsoir.
Vous avez coordonné le hors-série de Paris Match sur le centenaire de 14-18. Fabrice Dalméda, bonsoir Fabrice. Je vous appelle par votre prénom parce qu'on peut vous entendre tous les matins sur Europe dans le 5-7 de Mathieu Noël. Vous êtes historien. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du site Atlantico. On va d'abord dresser le bilan de l'itinérance mémorielle du président de la République, Emmanuel Macron, qui a passé une semaine dans le nord et l'est de la France, sans même dormir à Paris. Il a visité des lieux de mémoire comme Verdun ou le wagon de Rotonde où a été signé l'armistice. Il a visité des usines, des petits villages, il a croisé des Français, souvent derrière des barrières, mais pas seulement. Qu'avez-vous retenu de ce périple? Tout d'abord, le terme itinérance mémorielle. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on veut montrer qu'on ne fait pas partie d'une élite coupée de la base?
J'adore le silence gêné. Non, mais c'est vrai.
Fabrice
que c'est un mot étonnant parce qu'on aurait pu penser chemin, parce qu'on a beaucoup parlé des chemins de mémoire.
Ou même itinéraire.
Voilà, itinéraire, effectivement, mais qui faisait peut-être pour le coup un peu trop GPS, je ne sais pas. Mais itinérance voulait sûrement donner une allure un peu inédite, un peu particulière liée à ce qu'a fait le chef d'État. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme mot, son surgissement.
Alors, on va parler maintenant du fond. Qu'est-ce que vous avez retenu tous trois de ce périple? Question à la Georges Marchais. Quel bilan dressez-vous de cette semaine? Globalement positif, globalement négatif. Jean-Sébastien Ferjou.
Ni l'un ni l'autre, ou et l'un et l'autre peut-être.
Ok, super, super réponse. Caroline mais... Fontaine.
Je peux vous dire pourquoi quand même. Je peux vous dire pourquoi quand même. Non mais parce qu'il y a eu les deux, justement. Je pense que il y a eu un drôle de mélange dans cette itinérance mémorielle, et au-delà du terme, c'était quand même le mélange entre la commémoration de 1918 et l'impact historique qu'elle a pu avoir pour la France comme pour l'Europe, et les enjeux politiques d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait pendant toute la semaine, et c'est ce qu'il a fait aussi ce matin à l'Arc de Triomphe dans le cadre de son discours. Et je ne sais pas si on en sort vraiment gagnant, parce que je mets au défi les jeunes générations, si elles n'ont pas étudié la Première Guerre mondiale par ailleurs, de se poser la question pour quelles valeurs les soldats de 1914-18 se sont-ils battus. On peut considérer que c'était une boucherie horrible, qu'il y avait un côté parfaitement absurde à ça, mais quand même, je pense que les hommes de l'époque, eux, pensaient qu'ils se battaient pour des valeurs.
Pardon,
et ça,
pardon,
ça n'était
cliché,
pas présent.
Pardon, toutes les guerres sont horribles, non?
Mais bien sûr.
Il n'y a pas de belle guerre, il n'y a pas de saine guerre, ou je dis une bêtise?
Il y a quand même des combats qui sont plus glorieux que d'autres, dont la finalité est plus glorieuse que d'autres. Et je trouve que le mélange entre les enjeux de popularité d'Emmanuel Macron, que ce soit sur la scène nationale, comme on l'a vu toute la semaine, avec cette espèce de mélange justement entre des rencontres à tonalité économique et sociale, et ses commémorations, ou son discours d'aujourd'hui, qui est marqué par de grandes absences quand même, à commencer par celle de l'évocation du Royaume-Uni, qui était quand même un allié qui, me semble, nous a aidés dans la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, et l'un et l'autre, il a été plus mesuré que dans d'autres circonstances. Je suis pas certain qu'il en gagne grand-chose. Je pense pas qu'il ait perdu grand-chose non plus.
Hier, on avait à ce micro un historien, Michel Goya, qui nous expliquait que c'était nous, les Français, qui avions aidé les combattants britanniques. Caroline Fontaine.
Alors, sur ce sujet-là, où, ouais. La guerre, elle est passée. Alors, évidemment, la guerre aurait pas été gagnée sans les Français. Elle aurait pas été gagnée.
Sur le sujet du globalement positif ou globalement négatif. Comment vous avez perçu?
Jusqu'à aujourd'hui, plutôt négatif. Il part, il fait cette itinérance avec ce titre un peu ronflant, dans l'idée de parler plutôt de la paix que de la guerre, d'ailleurs. Et on ne retient que la polémique sur Pétain. Il essaye d'allier les problèmes d'hier à ceux d'aujourd'hui, et on n'entend que Josiane qui râle.
Jacqueline. On parlera de Jacqueline tout à l'heure, justement, qui a fait 5 millions de vues en parlant du prix de l'essence.
Voilà.
Vous savez quoi? Juste avant que vous enchaîniez, je voudrais vous faire entendre Marine Le Pen, qui, sans même faire de l'analyse, s'est contentée d'observer.
On a vu le président de la République en même temps parler du sacrifice des poilus et du prix de l'essence, des sacrifices de la Première Guerre mondiale et du permis de conduire. Enfin,
vous aussi, vous étiez déboussolé.
Oui, c'était peut-être pas une très bonne idée de lier les deux. D'abord, en plus, il est en perte de... Enfin, il a jamais été aussi bas. Il a perdu 11 points depuis cet été. Donc, aller à la rencontre des Français dans un moment pareil, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire de mieux. Il aurait pas dû mélanger les deux.
Alors, pardonnez-moi, parce que justement, son intention, c'était justement de remonter dans les sondages en allant à la rencontre des Français. Donc, vous dites que ça n'a pas fonctionné. Fabrice Dalméda.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Macron, il a jamais voulu faire de l'histoire pour faire de l'histoire. Dès le départ, d'ailleurs, ses conseillers en communication le disaient au moment de son élection. Il voulait pas se laisser emprisonner comme Hollande par des séquences purement commémoratives. Donc il était en logique avec lui-même en disant qu'il voulait faire ce parcours en alliant le passé et l'avenir et en le conjuguant au présent, si je puis dire. Et donc il en paye le prix d'une certaine manière. Mais moi je crois que le public n'a pas confondu les deux. En fait, dans des journées comme aujourd'hui ou même à Morange ou toute la semaine dernière, en fait les gens distinguaient bien la partie qui est la partie commune, j'allais dire célébrative, dans laquelle on était tous impliqués, soit familialement, soit par sens de l'histoire, soit par appétit symbolique. Ça, je crois que les gens le voyaient bien. Et ils voyaient bien de l'autre côté l'aspect polémique. Et je dirais, même encore aujourd'hui, je sens cette séparation-là autour de ce qui est peut-être l'aspect le plus contesté et contestable de la cérémonie, c'est-à-dire le surgissement des fémènes, où au fond, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui se disent que ça pollue ou que ça entache ce qui s'est joué du point de vue de la mémoire collective sur un siècle.
Alors, je vais parler d'histoire puisque Caroline Fontaine en parlait. Comment vous avez perçu cette polémique à propos du maréchal Pétain? Je pose à dessein la question à vous, Fabrice Dalméda, puisque vous êtes historien de formation. Je rappelle ce qu'a dit le président. Il a dit Pétain a été aussi un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale. Comment expliquez-vous cette erreur de communication ou alors ne trouvez-vous pas que ce soit une erreur de communication ?
Non, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a absolument voulu séparer le centenaire de la Grande Guerre des anniversaires de la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, quand il y a eu en 2014 le centenaire, il y a eu toute une polémique entre historiens, etc. pour savoir si 44 devait l'emporter sur 14. Or, en fait, on ne peut pas gommer la Seconde Guerre mondiale. Et de fait, elle est revenue, quand on la chasse, elle revient par la petite porte et elle revient, en l'occurrence, elle est revenue par Pétain. Erreur de communication, bien sûr, c'est évident. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que ce président-là avait envie de faire de la pédagogie. Or, précisément, sur la Première Guerre mondiale, on peut faire de la pédagogie, mais sur la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas. Parce que c'est le fondement même des valeurs républicaines.
Tous les sujets historiques ne se valent pas.
Mais d'autant plus que le public ne les ressent pas comme tels. Quand De Gaulle dit presque la même chose que Macron dans les années 60, les gens à qui il parle, ils ont vécu cette histoire. Ils peuvent faire la différence, ils peuvent faire l'équilibre, ils peuvent essayer de se dire aussi passons au-delà des conflits. Mais quand on parle à une génération qui est venue beaucoup plus tard et à laquelle on a expliqué ce qu'était le totalitarisme, à laquelle on a expliqué ce qu'a été le génocide, eh ben, ces gens-là, ils ne vont pas recevoir du tout le mot Pétain ou le mot Hitler de la même manière même qu'un Français pouvait le recevoir dans les années 50. Donc ce changement-là, justement, le défaut, c'est qu'on ne peut pas faire de la pédagogie quand on est président de la République, précisément.
Jean-Sébastien Ferjou, vous qui connaissez bien la politique de l'intérieur, comment expliquez-vous que le président Macron, qui soit aussi habile dans le maniement de la langue, des concepts et des idées, se soit pris les pieds dans le tapis avec le maréchal Pétain ? Si tant est que vous puissiez l'expliquer.
Si tant est qu'il pense que ce soit pris les pieds dans le tapis.
Non, mais il y a deux choses. Il y a le fond. On va pas refaire les débats. Moi, ça m'a pas particulièrement choqué sur le fond.
Non, moi, mon sujet ici, ailleurs, c'est pas Pétain.
Mais
l'itinéraire
c'est la
du président Macron.
Emmanuel Macron, je pense qu'il aime avoir raison contre tout le monde. Donc, il se trouve que là, il a été certainement pris un peu au dépourvu parce que ça avait été un peu anticipé quand même. Les conseillers à l'Élysée avaient vu venir la difficulté. Il a répondu à la volée sur un trottoir. Et quand Emmanuel Macron vous dit quelque chose, d'un, il aime bien avoir raison contre les autres sur ce sujet-là. Comme sur d'autres, je pense qu'il y a une part de narcissisme qui n'a vraiment mais rien à voir avec le maréchal Pétain. Ça aurait pu être sur un autre sujet. Une fois qu'il a dit quelque chose, il ne veut pas en démordre. Sauf qu'il y a quand même eu un rétropédalage un peu pathétique, en quelque sorte, de la part de l'Élysée. Parce qu'à un moment, il faut choisir, soit on assume, soit on n'assume pas. Mais
faut
je pense
dire,
que
la
c'est
cérémonie
sa personnalité. Il aime se voir beau en ce miroir, enfin, ou en ces caméras qui se tendent vers lui.
Et pour citer le rétropédalage, en l'occurrence, la cérémonie à laquelle devait assister le président, il n'y a pas assisté et elle a été déplacée samedi.
Non, il ne devait pas assister.
Dans les dossiers de presse d'il y a un mois et demi, il devait totalement y assister.
Envoyé sans le visa de la présidence. De toute façon, c'est même pas le problème. La vraie question, c'est le moment où il dit la phrase « Pétain a été un bon soldat pendant la Grande Guerre », à ce moment-là commence la polémique. C'est même pas la question d'assister ou pas à une cérémonie.
On est d'accord. D'autres polémiques à venir, d'autres débats à venir, tout de suite après ceci.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe. Notre grand débat d'actu se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités, Fabrice Dalméda d'Europe 1, historien, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site Atlantico et la journaliste Caroline Fontaine.
Caroline Fontaine qui a coordonné Tous enfants de poilus, c'est le hors-série de Paris Match consacré au centenaire de la guerre 14-18. On est toujours avec le président Macron dans son itinérance mémorielle. Il est dans l'Est et dans le Nord de la France. Autre polémique, pendant une cérémonie à l'ossuaire de Douaumont, le président était interpellé par un ancien combattant au sujet de l'immigration. Ce sont les micros et caméras de Quotidien qui ont perçu cette séquence. L'ancien combattant lui demande « Quand mettrez-vous les sans-papiers hors de chez nous ?» Réponse de Macron « Ceux qui n'ont pas de papiers et qui n'ont pas le droit à l'asile, croyez-moi qu'on va continuer le travail. » Réaction Caroline Fontaine.
À ce moment-là, où il est là en train de commémorer la fin d'une guerre qui a fait des millions de morts, c'est pas une très bonne idée de dire ça. Ça a fait non seulement des millions de morts, mais des centaines de milliers de réfugiés au lendemain de la guerre aussi, de déplacés, etc. Donc, c'est sûr que on reprend Macron comme toujours à dire des petites phrases, à dire des choses qu'il n'a pas réfléchi et qui pensait pas être entendu.
Comment se fait-il, pardonnez-moi cette question de Béotien, qu'on puisse ne pas réfléchir, ne pas penser être entendu quand on est président du cinquième pays du monde et que toutes les caméras sont braquées sur vous ?
Il s'en est quand même rendu compte, parce que précisément, dans la phrase que vous citez, il s'est arrêté. Il n'est pas allé plus loin. On sent qu'il était prêt à insister un peu auprès de l'ancien combattant, mais qu'il ne l'a pas fait. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron met en scène sa relation directe avec les Français, et il s'alarme par ailleurs des problèmes que rencontrent les démocraties occidentales, sauf que les démocraties, ce sont des démocraties représentatives. Et il pourra essayer de renouer le contact autant qu'il veut avec les Français. Il ne pourra que susciter ce genre de scène-là, parce que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord avec 65 millions de personnes. Donc c'était une chose qu'il se soit fait élire en appuyant sur les partis ou les syndicats qui étaient complètement vermoulus et qui se sont effondrés d'un coup de main. C'en est une autre de considérer qu'on peut vivre sans. Ce n'est pas parce que effectivement les partis sont dans un sale état que pour autant on doit considérer qu'il n'y a que le rapport direct entre le président et les Français qui compte. Je pense qu'il ne va que continuer à s'exposer à ce genre de scène-là à l'avenir.
Fabrice Dalméda.
Mais ce qu'il y a de très marrant, c'est qu'il a essayé d'avoir la phrase d'empathie en disant « on va faire le travail » et puis derrière de commencer à faire de la pédagogie en expliquant qu'il y en avait certains qui avaient des conditions de vie difficiles qu'il fallait, etc. etc. Et donc on voit bien le paradoxe dans lequel il est installé et dans lequel il est depuis le début de cette itinérance peut-être justement.
Et alors je reviens au sujet qui intéressait le plus les Français, à part évidemment le centenaire, qui était l'essence. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous avez estimé que le débat sur l'essence a pollué l'itinérance mémorielle ou au contraire, ce périple était un prétexte pour faire en sorte que le président redescende au niveau du peuple ?
Ah non, je trouve que le débat a pollué, enfin le débat sur l'essence a pollué son parcours mémoriel. On en a beaucoup parlé et d'autant plus que ça a cristallisé. On a parlé que du chèque essence, du chèque énergie, etc. Ça a cristallisé le problème d'aujourd'hui, qui est ce sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent, que on s'en sortira pas, et ça a refait de lui le président des riches qui a aboli l'ISF, etc. Donc c'était la catastrophe, ça.
Mais est-ce que pardon, je vois peut-être du complot partout, mais qui n'est pas un complot. Est-ce que cette séquence n'aurait pas pu être totalement réfléchie en prenant prétexte de ce centenaire pour renouer avec les Français et marcher dans la rue et leur parler des problèmes quotidiens. Il se trouve que c'est tombé sur l'essence, mais ça aurait pu être un autre sujet, Fabrice Dalméda.
C'était l'objectif, et précisément, vous avez employé le mot de pollution, et le diesel, ça pollue. Et quand le diesel s'appollue, on augmente le prix du diesel. Le seul problème, c'est quand on augmente le prix du diesel, on s'attaque aux classes populaires. Et donc, on veut parler aux classes populaires, et en même temps, c'est le moment peut-être le plus difficile pour le faire.
On va parler du diesel dans la troisième partie, je le précise, de ce débat. Jean-Sébastien Ferjou.
Ça serait aussi certainement plus crédible si réellement il y avait une politique de transition énergétique mise en œuvre grâce à ces taxes. Or, malheureusement, on voit bien que l'argent levé sur ces taxes est consacré à plus de deux tiers à autre chose que le financement de la transition écologique. Donc les gens n'y croient pas. Quant à la pollution, et ben c'est la Chine qui pollue. Donc de toute façon, même si demain on arrêtait toutes les voitures en France, on ne changerait quasiment rien, ou alors à 0,01% au dérèglement climatique en cours. Et ça, je pense que les Français, quand ça touche à leur portefeuille, ils veulent bien des symboles, mais il y a des limites.
Je reste dans le champ de l'itinérance mémorielle. L'Élysée a fait savoir, ou a laissé savoir, que ce genre de rencontre étalée sur une semaine risquait de se reproduire. Alors, c'est que c'est une règle de communication. Il faut toujours dire qu'on est ravi de ce qui vient de se passer, mais vous-même, est-ce que vous y croyez ?
Sûrement qu'il le refera, puisqu'il a bien vu que son lien était distendu, son lien avec les Français, donc il faudra qu'il le fasse.
Non, vous venez de nous dire que c'était une catastrophe. Donc moi, si on m'apprend quelque chose de catastrophe, j'ai aucune envie de recommencer.
Non, c'est une catastrophe au regard de ce qu'il voulait dire sur la mémoire. Moi, je ne crois pas qu'on ait retenu. Il y avait une cérémonie magnifique à Notre-Dame de Lorette. Je ne crois pas qu'on l'ait entendu. Donc, malheureusement. Ceci dit, je m'arrête là parce que aujourd'hui, c'était une très belle journée. Et cette semaine, elle se termine par une cérémonie qui était très belle, qui a eu quand même, qui était pacifiste, avec ensuite ce soir le Forum de la paix. Donc c'est un message d'espoir. Et la cérémonie d'aujourd'hui, les Femen, à mon avis, l'ont pas du tout polluée. Pour le coup, on l'a entendu, on l'a vu. Et elle montrait aussi que les Français, en fait, ont retrouvé leurs poilus. Et c'était d'ailleurs, on a eu ce débat sur Pétain, mais aujourd'hui, c'était les poilus. On a entendu des lettres de poilus. C'était une cérémonie qui rendait hommage aux soldats.
Donc si je vous suis tous les trois, ce qui a péché, ce qui a échoué, c'était ce mélange, des genres.
Le truc qu'il a réussi, c'est le truc que la logistique de la Ve République sait réussir, c'est-à-dire le voyage de chef d'État, comme les Tours de France de Gaulle, comme les voyages de Mitterrand, et donc ça, je pense qu'il va le refaire, parce que cette logistique-là, elle existe, on sait mobiliser les gens localement, on sait mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça ait de la gueule.
Oui, il y a une chose que ne supportent plus maintenant les Français avec Internet, c'est le barriérage, c'est de n'avoir que des supporters. Maintenant, on a envie que les gens
soit libre.
Il y a un petit côté village Potemkin. Enfin, il faut quand même rappeler que les Gilets jaunes, justement, ils étaient soigneusement tenus à distance du président. Donc, c'est-à-dire que même des gens qui, justement, avaient déjà été sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas censés être des opposants virulents au président, bah, l'ont quand même un peu été. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'Emmanuel Macron était beaucoup plus maîtrisé, mesuré, moins arrogant que, à part l'épisode sur Bibi, vous savez, quand il dit les carburants, oui. C'est pas Bibi, mais à part ce petit dérapage-là, il était moins pénible, disons, à écouter par les Français que dans d'autres circonstances. Mais malgré tout, bah, les Français, c'est un peu comme s'ils avaient acté que de toute façon, l'image de l'arrogant, elle était installée une fois pour toutes, et ils lui répondent comme s'il continuait à leur donner des leçons de morale, comme il avait pu le faire face à des retraités ou d'autres, ou à traverser la rue auparavant.
Jean-Sébastien Ferjou, vous faites rire Fabrice Dalméda.
Non, mais parce qu'il y avait un petit côté outrance dans le propos. On sent l'opposant. Oui. On sent l'opposant. Mais, et à un moment donné, on sait plus, ça dérape de l'analyse un peu vers du prescriptif.
Le côté village Potemkin, vous pouvez pas le nier. Les gens étaient sélectionnés.
Il existe toujours. Il fait partie de cette logistique.
Je suis d'accord avec vous.
Il fait partie de cette construction.
Comment vous renouez le lien avec des gens que vous voulez pas rencontrer?
En améliorant la construction de l'événement et en étant pédagogue en amont, au lieu d'être sélectif en aval, comme vous venez de le dire.
Je ferai pas mieux. Après du Fabrice Dalméda, le silence qui suit est toujours du Fabrice Dalméda. On se retrouve également avec Caroline Fontaine et Jean-Sébastien Ferjou sur notre débat sur le 18-20 d'Europe 1.
Europe 1. Eurovin.
Fin de notre grand débat d'actu avec vous Philippe Vandel et vos invités. Il va être question des gilets jaunes à présent. N'hésitez pas à vous exprimer sur europe1.fr. Publiez vos commentaires également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nous sommes avec Caroline Fontaine qui est journaliste, Fabrice Dalméda, historien qu'on pourra entendre demain dans le 5-7 de Mathieu Noël et Jean-Sébastien Ferjou, le fondateur du site Atlantico. Caroline Fontaine, je ne l'ai pas dit, vous êtes journaliste et vous avez coordonné le hors-série de Paris Match sur le centenaire de 14-18. On va maintenant anticiper l'énorme manifestation qui se prépare, ou pas, pour le 17 novembre, les Gilets jaunes qui voudraient bloquer tout le pays pour protester contre l'augmentation du prix des carburants. D'abord, le gouvernement, l'exécutif a fait la sourde oreille à ces revendications. Le Premier ministre Édouard Philippe se disait droit dans ses bottes. Et puis, cette vidéo, vous en parliez en vous trompant de prénom, qui a fait 5 millions de vues, signée par une inconnue totale, elle s'appelle Jacqueline, une manif improvisée à Dole, dans le Jura, où toute la ville a été bloquée. Finalement, le président Macron a été obligé de prendre la parole, a annoncé en catastrophe une série de mesures pour compenser la hausse des taxes. Un chèque, on sait pas trop, un chèque carburant, un chèque chauffage, un chèque gasoil. Est-ce que cela va suffire à calmer la grogne, Caroline Fontaine?
Alors, il faut craindre quand même à une agrégation des mécontentements. On a le sentiment que c'est en train de dépasser le diesel, ce qui se joue là maintenant. Comme ça, c'était d'ailleurs joué avec les bonnets rouges. En fait, dès que se cristallise un problème autour des taxes, le sentiment qu'on paye trop de taxes, ça peut être la catastrophe. On l'a connu au cours de l'histoire, aujourd'hui encore. Donc voilà, c'est ça qu'ils peuvent craindre. C'est que maintenant, les gens, le diesel est juste un prétexte à pouvoir dire qu'ils sont très mécontents de ce qui se passe.
Fabrice Dalméda.
C'est une tradition française. Moi, je me souviens d'avoir étudié ce qu'on appelle les révoltes populaire en France au 16e, 17e siècle. Et en fait, chaque tour de vis fiscale, c'est comme ça que ça s'appelle les hausses d'impôts, déclenche un soulèvement, une émeute. Et les bonnets rouges, c'était une référence vraiment historique immédiate hein, à un soulèvement qu'il y avait au 17e siècle en Bretagne. Et là, on a les gilets jaunes, donc on est un peu plus embarrassé pour trouver la référence stricte de couleur, mais on voit bien que c'est la même logique. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'agrégation territoriale, en réalité. Ça joue énormément cette solidarité locale. Et en fait, c'est là où il est très embarrassé, parce que comment le qualifier politiquement ? En faire de l'extrême droite, ça marche pas. En faire de l'extrême gauche, ça marche pas. Donc comment le faire ? Eh ben, les monarques étaient face à la même difficulté au XVIIe siècle.
Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ça va prendre ?
Je crois pas tant que ça, justement, même si le consentement fiscal est quand même le fondement de la démocratie. Mmh. Il faut le rappeler, c'est le consentement à l'impôt qui est un des fondements centraux de la démocratie. Donc quand il y a plus ce consentement à l'impôt, ça veut dire qu'on a quand même des démocraties qui ne sont pas en très bon état, et on peut faire tous les grands discours qu'on veut devant les chefs d'État de la planète réunis sur la défense des valeurs démocratiques. Il faut quand même agir dans le réel. Après, pourquoi je pense que ça peut pas vraiment... C'est un peu comme les bonnets rouges, en quelque sorte. C'est un mouvement qui est tellement centré sur une seule mesure que ça, il peut y avoir un vrai blocage de la France et ça peut être pénible pour le gouvernement, mais je vois mal une traduction politique en tant que telle. En revanche, ça peut empêcher le gouvernement, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est quand même fait élire sur son audace, sur sa volonté, il a vendu du rêve, sur sa capacité à transformer le pays, et on voit que là, les gens n'y croient plus. Et donc, il peut se retrouver pendant la fin de son quinquennat, comme un peu François Hollande après les bonnets rouges, ben un peu empêché.
Alors, il a une phrase terrible, le président Macron. Il a dit « Je préfère taxer l'essence que taxer le travail. »
Et en creux, on a compris qu'il voulait avant tout taxer.
Bah, il veut parce qu'il faut bien financer, les dépenses de l'État français. Et c'est malheureusement.
Et donc, c'est ce dont vous parliez, c'est le consentement à l'impôt.
Dans le projet de loi finance, il n'y a pas d'effort sur l'efficacité de l'État ou sur les dépenses ou sur les dépenses publiques. Donc, bah oui, il faut bien aller chercher l'argent ailleurs.
Alors, on ne sait pas où il est. Il y a plusieurs pistes qui ont été annoncées. J'ironisais tout à l'heure, mais c'était soit l'échec énergie, soit l'échec carburant. Mais on se dit qui va payer. Si ce sont les régions, elles vont devoir prendre cet argent sur les impôts. Et si ce sont les entreprises, les charges vont augmenter. Ce que justement Macron voulait éviter, c'est insoluble.
C'est insoluble, oui.
Mais on le savait.
Ben oui, parce qu'il faut baisser les dépenses.
Non, on le savait d'une certaine manière. Dans la première année de mandat.
Comment ça, on le savait? Vous le saviez et eux ne le savaient pas.
On le savait, mais eux-mêmes, je crois, le savaient. Ils savaient que dans leur première année de mandat, ils avaient fait un certain nombre de dépenses, un certain nombre de promesses, ouais, qu'il allait falloir payer dans la deuxième année de mandat. Mais l'espoir qu'ils avaient, c'est que la croissance soit un petit peu plus forte. Or, malheureusement, elle a été un peu moins forte que ce qu'ils avaient espéré et estimé. Donc, ils se retrouvent face à la quadrature du cercle, c'est-à-dire maintenir des dépenses en essayant de ne pas augmenter les recettes, et ça, c'est pas possible.
Et elle se retrouve moins forte, la croissance, parce qu'il n'y a pas de fatalisme quand même. Il faut le rappeler, le chômage, il est à 2,4% en Suisse. Regardez la croissance au Royaume-Uni, les chiffres sont sortis hier, elle est trois fois supérieure à la nôtre, alors que pourtant, Dieu sait si avec le Brexit, on nous a annoncé que ça allait être une apocalypse terrible. Regardez aux États-Unis et regardez ce qui se passe en plus aux États-Unis. Ça n'est qu'après quasiment 10 ans de croissance ininterrompue que pour la première fois depuis cet été, les ouvriers bénéficient de ce cycle d'expansion. Donc moi, je veux bien qu'on fasse des grands discours sur la démocratie, mais comme le rappelait la présidente de la Fed la semaine dernière, qui n'est pas une dangereuse populiste, il y a une seule chose qui protège les démocraties et qui protège les moins favorisés, c'est la croissance. Mais encore faut-il s'en donner les moyens.
Alors on se demandait s'il allait y avoir une récupération politique du mouvement du 7 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Fontaine?
Elle sera dure à faire. Si elle le sera, ça sera plutôt à regarder du côté de l'extrême droite ou de Nicolas Dupont-Aignan, qui sont ceux...
Ah. Alors j'ai quelqu'un à vous opposer, okay, parce qu'également Jean-Luc Mélenchon souhaite le succès des Gilets jaunes. Il estime que le prix du carburant est trop élevé.
Alors oui, probablement aussi de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça a toujours été très compliqué à récupérer ces mouvements-là, parce que justement, c'est des mouvements qui sont bâtis contre le politique et qui n'ont pas du tout envie d'être récupérés. Donc je vois pas, à moins que vous voyez comment ils pourront être repris. Mais
je précise, pour être tout à fait complet, que Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, proposait d'augmenter les taxes sur les carburants,
ouais,
à l'époque.
Oui, mais le problème, c'est qu'il a quand même plus une idée de politique de relance par la demande, par la consommation. Donc lui, il serait plus prêt à faire du déficit pour ça, à supporter éventuellement une baisse des taxes pour avoir un peu plus de déficit budgétaire et un peu plus d'endettement. C'est là où on est un peu coincé, parce que quand on regarde ceux qui sont effectivement en dehors du pacte de stabilité européen, bah, ils ont des marges de manœuvre plus grandes et que bah, nous, on a un engagement qu'on veut tenir. C'est toute la difficulté.
Alors le monde a changé. Autrefois, les mouvements qui réussissaient étaient ceux qui étaient bien structurés. Et cette fois, on a l'impression que c'est l'inverse. Ce qui fait peur à l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de meneur. On ne sait pas qui est le patron. Il y a cette fameuse Jacqueline qui vous fait sourire, Caroline Fontaine, qui a fait 5 millions de vues et on ne sait pas qui ils sont, comment ça va se passer et comment le pouvoir va pouvoir se prémunir de ces gens-là.
Mais c'est bien ce que je vous disais. L'enjeu majeur, c'est de reconstruire une démocratie représentative avec des corps intermédiaires qui fonctionnent, avec des partis, qui aient des idées, qui travaillent, qui vivent dans le monde tel qu'il est et pas tel qu'il était il y a 30 ans ou il y a 40 ans, qui ne se contentent pas de grands discours sur les valeurs, en plus en prenant des postures avantageuses, parce qu'évidemment face à Donald Trump c'est facile d'avoir l'air plus vertueux, il ne sait de tendre le président des États-Unis de tendre le bâton pour se faire battre. Sauf que la réalité, pour que ça marche justement, pour convaincre Jacqueline, eh bien il faut des partis et il faut des syndicats qui soient forts. Et ça, on ne les a pas et on n'y travaille pas particulièrement dans ce quinquennat.
Mais ça ne se décrète pas.
Et
ça, se décrète d'autant moins dans une société où on voit une montée de l'individualisme, une montée de l'émiettement et corrélativement une montée de la radicalité. C'est-à-dire que c'est un phénomène. Voilà, c'est un phénomène qu'on peut tous constater quotidiennement. C'est-à-dire que là, il y a quand même, c'est pas femme au bord de la crise de nerfs, c'est France au bord de la crise de nerfs.
On fera pas mieux comme conclusion. Merci beaucoup Fabrice Dalméda, historien, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site Atlantico, et Caroline Fontaine, vous êtes journaliste, et je rappelle que vous avez coordonné ce magnifique hors-série de matchs sur le centenaire de 14-18. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite de ne pas être bloqué samedi si vous partez à la campagne.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler de football avec Lionel Rousseau. Comment ça va Lionel? C'est
ça
quoi le programme
bien.
Ce
Bonsoir,
soir
Bonsoir Philippe, un très beau match ce soir, le choc des extrêmes. Monaco-Paris Saint-Germain, si on vous avait dit le choc des extrêmes entre ces deux équipes.
équipes.
Mais il faut expliquer. Il faut dire qu'il y en a un qui est en tête du classement
le PSG,
et l'autre qui est dernier, alors
Monaco,
qu'avant,
19e.
Ils se battaient à touche-touche.
Exactement.
L'un contre l'autre.
Monaco était même champion il y a 2 ans, vous vous rendez compte?
Mais oui, je m'en compte, je m'en souviens. Je n'en reviens pas et je vais regarder ça ce soir. Je vous salue, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne émission, merci à tous, salut.